Donc je proposais de revenir pour commencer, peut-être pour nous diviser l'esprit, par revenir sur deux notions qui avaient été mises en jeu dans la discussion à l'issue de la précédente séance concernant l'un des trois, en fait, hein, je disais, la défaite, la volonté et puis le juste ou la justice. Mais sur le juste, j'y reviendrai, si vous voulez bien, de toute façon, dans le cours de ce que j'ai envisager de vous dire ce soir. Peut-être sur la défaite, même si l'auteur de la question n'est pas là ce soir, je propose de... Je sais que c'est difficile, il y avait eu un débat là-dessus après le 11 septembre auquel j'avais participé. D'ailleurs, il y a une publication dans le numéro 8 de la revue Ligne où cette question était abordée, c'est-à-dire celle de substituer la notion de vaincu à la notion de victime. Mais moi, je me demande si on peut se passer, pour penser la modernisation, c'est-à-dire le moderne dans son avancée, de la notion de victime. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est un peu ce que j'essayais de mettre en jeu, c'est une possibilité du changement des sociétés, disons. Une autre voie est possible, j'ai essayé de le dire la dernière fois. Mais c'est aussi une voie possible et ouverte à mon sens depuis longtemps, dans sa possibilité même, disons qu'on pourrait, si on pourrait appeler ça la modernisation précisément, ou l'avancée moderne, s'avance de telle manière qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de guerre déclarée, je dirais, a priori. Hein. Et donc, dans un premier temps, peut-être, le monde moderne, ou un monde moderne, s'installe en faisant d'abord, non pas des vaincus, mais des victimes. Et c'est peut-être, je sais que le lien est rapide, hardi, il faudra y revenir probablement une autre fois, c'est peut-être ce que peut traduire l'expression, en tout cas moi je l'entends comme ça, de Benjamin, nous sommes devenus pauvres en expérience communicable. Et je pense qu'il faudra revenir sur le statut du communicable en général. Je crois que cette situation de pauvreté en expérience communicable, donc pas de pauvreté en expérience, mais de pauvreté en expérience communicable, c'est sans doute aussi ce que désignent les notions de choc, de coudoiement, etc., qu'on trouve développées chez Benjamin et dont j'ai déjà parlé lors de séances précédentes. Peut-être que d'une manière générale, ce que le processus, ou ce qu'un processus de modernisation exclut, c'est les situations qui pourraient être caractérisées par l'affrontement, par l'adversité, par le face-à-face. Et peut-être, par conséquent, s'il y a une défaite, et c'est ce que j'aurais voulu répondre, ce que je n'ai pas répondu la dernière fois, mais s'il y a une défaite avec la modernisation, c'est peut-être justement la défaite de l'exposition publique ou de l'espace public en tant qu'espace dans lequel des affrontements sont construits, organisés. Peut-être s'il y a une défaite avec la modernisation, est-ce une défaite qui se lie à un gain, je dirais, en secrète sécrétion du monde, hein, c'est-à-dire que les choses s'avancent sans qu'on puisse les affronter. Et peut-être cette secrète sécrétion du monde peut-elle être considérée comme étant, enfin ça serait ma thèse, un progrès radical de l'industrie. Moi, j'associe dans, disons, l'effort de travail conceptuel que j'ai essayé de faire autour de ce terme-là, industrie, je pense que ce terme se lie à une méthode, si vous voulez, de fabrication des choses, de production de phénomènes, de production phénoménale, qui est, comment dire, liée à la sécrétion. Alors, comment tout ça s'installe dans le monde, ça s'installe de telle sorte que ça produit, si j'ose dire, de la pauvreté en expérience communicable. Et peut-être peut-on lier, peut-être, c'est une question hein, que je nous adresse, peut-être peut-on lier cette situation à celle de victime. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, ce qui disparaît, si vous voulez, ou ce qu'il faut construire, c'est une situation de lutte. Il n'y a pas que les classes, autrement dit, qui disparaîtraient avec la modernisation, il y a aussi la lutte. La défaite serait par conséquent la défaite, finalement, des espaces de lutte déclarés. qui est une façon peut-être aussi de nommer, disons, je vais y revenir ce soir, l'amoindrissement du politique. On peut noter en tout cas qu'aujourd'hui, la gestion des valeurs économiques est au moins, de manière relative, déconnectée des biens. On peut noter que l'on peut aujourd'hui très facilement rompre une relation sans déclarer la rupture. Alors, de toutes sortes de niveaux, on peut couper un crédit ou un droit d'accès extrêmement facilement et sans affrontement. On peut raccrocher au téléphone, on peut abandonner un espace d'échange en laissant l'autre sans ressources pour réagir. Hein. Je dirais que ces ruptures qui sont rendues possibles par la technologie des services, si vous voulez, ces ruptures ont une dimension que je qualifierais d'impitoyable. Et si on a le temps, lors de l'une ou l'autre séance, et si c'est pertinent, bien sûr, si la discussion vous fait apparaître que c'est pertinent, j'aimerais bien revenir sur ces termes-là. Sur ce terme-là. J'introduis pas directement la notion de pitié, je sais que c'est très problématique, mais je pense qu'on pourrait peut-être quand même l'envisager. En tout cas, il y a quelque chose d'impitoyable dans l'avancée moderne. C'est peut-être cette formulation que je proposerais, si vous voulez, en réponse ou en regard de celle qui m'était proposée il y a 15 jours avec la notion de défaite. L'impitoyable. Alors il y a un statut de l'impitoyable ou de la pitié qui a été lié, comme vous savez, philosophiquement il y a très longtemps par Aristote à la crainte, hein, justement. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose de ce type-là qui serait à repenser, si vous voulez, la situation de ce qu'on peut craindre et de ce dont on peut avoir pitié et comment les choses se lient aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je voulais dire pour remettre en jeu, si vous voulez, la séance d'il y a 15 jours. La seconde porterait alors sur une remarque que je n'ai pas, enfin que j'ai relevée, si vous voulez, mais à laquelle je n'ai pas répondu concernant la volonté. C'est Bernard qui m'avait fait cette remarque. Je proposerais peut-être pour ma part le terme d'espoir. Là aussi, c'est mis en discussion. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est celle de savoir ce qu'on peut espérer. Qui serait peut-être pour moi une question, d'une certaine manière, pratiquement préalable à celle de la volonté. Il me semble, d'ailleurs, qu'il serait possible et utile de définir cette notion d'espoir par rapport à la notion de crainte. Hein. Qu'est-ce qu'on peut espérer qu'est-ce qu'on peut craindre? Ma proposition ne constitue évidemment pas une réponse suffisante au problème que pose la modernisation, mais je me demande si ça n'est pas tout de même une réponse nécessaire. Disons donc, hein, je vous propose donc de dire que peut-être, en tout cas, la possibilité d'espérer est une condition de la volonté. Et donc, il faut examiner les conditions de possibilité d'un espoir. Or, me semble-t-il, ce qui peut être désespérant, et que, me semble-t-il toujours, d'une certaine manière, la structure de la pensée de Kant avait envisagé, si vous voulez, d'une certaine manière d'avance, ce qui pourrait peut-être être désespérant, ce serait que l'absolu de l'exigence morale se trouve dressé comme tel face à la loi des productions phénoménales, comme je disais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce de contradiction absolue entre le monde tel qu'il s'avance, les phénomènes tels qu'ils sont produits, tels qu'ils se réalisent selon leur loi de production, qui est, je vais y revenir ce soir, économique, et que face à cette loi de production des phénomènes avec lesquels nous vivons, se dresse de façon absolue une exigence morale qui, au fond, les interdise. Alors, je me demande si cette situation n'est pas celle que théorisent les tenants du principe de responsabilité. Ce qui pourrait faire face à cette situation tragique, hein, d'une responsabilité absolue opposée à un mode incontournable d'avancée des phénomènes, des productions phénoménales dans le monde, je me demande si, pour faire face à cette situation éventuellement tragique, il ne faudrait pas trouver, dans le cadre justement de la loi des productions phénoménales, le cadre aujourd'hui économique, loi aujourd'hui économique, justement des manifestations que je proposerai, même si le terme paraît un peu étrange, esthétique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, au fond, un certain devenir sensible de ce qui arrive dans le monde pour que, peut-être, quelque chose comme un espoir soit possible. Et c'est pourquoi je pense, par exemple, qu'il peut être intéressant pour notre sujet d'interroger les conditions contemporaines d'une pratique d'architecture, par exemple. Hein. Il semble que dans l'architecture, justement, se rassemble pratiquement cette question, se résout d'une certaine manière toujours pratiquement, même si la solution n'est pas satisfaisante, c'est toujours une solution, une architecture ou un urbanisme, c'est toujours une solution de cette éventuelle contradiction ou tragédie entre d'une part la loi de la poussée des phénomènes, des fabrications des choses dans le monde avec lesquelles nous vivons, et d'autre part l'exigence morale. Et donc voilà, ça c'était pour, si vous voulez, pour faire quelques suggestions autour de questions que nous nous sommes posées, me semble-t-il, il y a 15 jours. Enfin, peut-être je vous ai pris à froid, mais si vous voulez, je vous propose qu'on ait la même démarche que la fois précédente et d'ailleurs la fois également d'avant, c'est-à-dire sur cette base, si vous souhaitez qu'on fasse démarrer une petite discussion, je vous en prie, faisons-le, et puis éventuellement s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous souhaitez que nous discutions dès maintenant, en regard de ce qui s'est dit la fois précédente, là aussi, conformément à la méthode de travail que nous avons essayé de mettre en place dans ce séminaire, je vous en prie, discutons. Hein, pour un premier moment pour ce soir. En tout cas, c'est possible. Hein, bon, vous préférez peut-être que j'en vienne au propos de la. Alors, lors de la séance précédente, en faisant référence au propos d'Aristote, je me suis efforcé d'établir le lien radical qu'il faut faire, je dirais, depuis cette pensée, depuis que cette pensée et le monde auquel elle s'adresse nous occupe. Je me suis efforcé d'établir le lien radical qu'il faut faire entre la parole, entre l'idée grecque de la parole et la technique. L'idée des animaux politiques qui aura éloigné l'humanité d'être conçue comme, ou les humains, pardon, d'être conçus comme des enfants de Dieu, hein, et l'humanité d'être tenue par le divin, cette idée est inséparable de celle des animaux parlants. Il semble que chez Aristote, il y a une configuration, on parle, je vais y revenir, hein, j'en ai déjà parlé la fois précédente. On essaye de marquer par la parole ce qui distingue l'utile et le nuisible, d'une part le juste et l'injuste d'autre part. Donc, il apparaît dans cette formule, parler c'est parler de l'utile et du nuisible, que la technique est l'objet de la parole, et en même temps la parole est elle-même ce par quoi se manifeste la nature politique, l'animal politique. Donc les choses, me semble-t-il, se lient. La politique a été inventée par les Grecs, comme vous le savez sans doute, comme une instance chargée de suppléer à partir de paroles échangées au défaut de règles a priori de gouvernement. Ce défaut de règles a priori de gouvernement étant lui-même le défaut postulé, si vous voulez, par l'invention de la politique, par l'idée même de politique. La politique est donc inventée comme une instance chargée de suppléer aux défauts de règles a priori de gouvernement ou, on peut le dire encore autrement, de conduite. C'est parce que l'animal politique n'a pas de conduite a priori définie, hein, de quelque manière que ce soit, qu'il faut qu'il parle sa conduite. Et cette parole de la conduite peut être une définition idéale, si vous voulez, de la politique. Mais la parole à son tour, on peut le montrer depuis Aristote, je l'ai dit il y a quelques secondes, et on peut a fortiori le montrer en empruntant aux travaux anthropologiques plus contemporains, n'est pas concevable sans la technique. Son premier enjeu, depuis Aristote, c'est la mise en discussion des limites, donc, de l'utile. La pensée grecque, dont Aristote s'est fait témoin, a estimé que l'humanité, étant dans le défaut de règles a priori de conduite, n'était pas tenue à la stricte reproduction de ses conditions de vie, mais elle était ouverte aux contingents, aux non programmés, aux non décidés d'avance. C'est donc ce qui s'exprime dans la formule de l'animal politique. Cet animal est voué, soit dit en d'autres termes, à l'existence, hein, pas seulement à la vie, et à l'historicité. Pour vivre, cet animal, l'animal politique, n'a pas de limite a priori, il a au devant de lui des possibilités, il a une notion de l'avenir. J'ai relu les textes d'Aristote sur la technique, c'est très clair. Aristote introduit dans la métaphysique le concept de technique, de nouveau par une phrase qui distingue l'animal qui a le sens de l'avenir de l'animal qui n'a pas le sens de l'avenir. Et celui qui a le sens de l'avenir est le technicien. Donc il a une notion de l'avenir, l'animal politique, c'est-à-dire d'un temps qui est ouvert, indéterminé, qui n'est pas, comme certains animaux, Aristote le dit déjà, une simple notion de la répétition du passé. Avec quoi les êtres qui ont une notion du temps arrêtée, si j'ose dire, fixée à la répétition du passé, sont, Aristote le montre assez, l'affirme assez nettement, sont des animaux domesticables, dressables, mais pas des animaux parlants. Donc, le principe d'ouverture du temps, l'avenir, l'idée même d'avenir, en tant que l'avenir n'est précisément pas ce dont nous savons de quoi il sera fait, en tant que l'avenir n'est pas inscrit dans le passé, ce principe d'ouverture fonde pour l'être humain au monde donc une notion d'existence. Disons ceci si vous voulez, l'existence dans cette ligne de pensée est la vocation d'une vie humaine. Alors d'où vient qu'un tel principe d'existence puisse à son tour, comme il semble bien aujourd'hui, être si mal vécu. D'un côté, il y a, nous le voyons, les réactions des forces souveraines, au sens que j'évoquais la dernière fois. Il y a des réactions de forces souveraines, c'est-à-dire de forces qui, si vous voulez, fixent ou enracinent le gouvernement des hommes sur des fondements qui ne sont pas la parole et la politique au sens que je viens de dire, mais qui sont des souverainetés absolues et indiscutables. Donc d'un côté dans le monde, il y a des réactions de forces souveraines qui veulent ignorer la puissance de la parole et des utilités, réactions dont, je faisais allusion à cela la dernière fois, Fethi Ben Slama analyse les motifs et les modes de violence. Mais cette explication n'épuise pas le sujet. Il y a des pouvoirs, c'est une évidence, qui vivent mal la vocation à exister de l'humanité. Bon, ça n'épuise pas le sujet que de le rappeler, même s'il faut évidemment le rappeler et en faire quelque chose. Ça n'épuise pas le sujet parce qu'il n'est pas aisé d'un autre côté, de toute manière, d'être voué aux utilités et à la parole. Il n'est pas aisé d'être voué à un monde fait d'utilité et pas de nécessité, et il n'est pas aisé d'être voué à la parole. Je donnerai, si vous voulez, à cette difficulté, au moins pour ce soir, deux raisons. La première, je l'exposerai dans l'analyse de la notion même d'utilité, et la seconde, je l'exposerai dans le caractère second de la parole et de la politique, dans les sociétés qui ne se fixent pas à quelque forme que ce soit de transcendance et qui ne s'identifient pas, si vous voulez, à un non-natif, comme j'emprunte cette expression à Fethi Ben Slama, ou en tout cas cette notion, même si ce n'est pas exactement son expression. L'un des enjeux de la modernisation politique, selon lui, étant précisément de, pour certaines sociétés, de se dégager dans leur identité au non-natif, au non-NOM, à leur dénomination native. On a dit s'ouvrir dans la figuration et la compréhension même du nom qui les nomme à quelque chose qui est de l'ordre d'une existence. Mais de toute façon, pour nécessaire, c'est pas le bon mot, hein, pour importante qu'elle soit, cette ouverture, donc pour non secondaire qu'elle soit, c'est ce que j'essaierai d'expliquer dans un second temps tout à l'heure, cette ouverture est inévitablement seconde. Et donc finalement, je pense qu'on peut peut-être raisonner de façon ordonnée en étudiant premièrement les conditions d'avancée de l'utile et montrer ce qu'il y a de difficile à vivre de toute façon dans ces modes d'avancée et deuxièmement de réfléchir sur le caractère inévitablement second, pas secondaire mais second, de la parole et de la politique. Alors s'agissant de l'utile, le problème qu'Aristote avait déjà remarqué est qu'il n'y a aucune raison d'en borner le champ a priori. Ce que je suis en train de faire ici, c'est de construire quelques éléments de discussion avec l'argumentation et les thèses que développe Jean-Pierre Dupuis, par exemple, dans « Vers un catastrophisme éclairé ». Donc, s'agissant de l'utile, le problème est qu'il n'y a pas de raison d'en borner le champ a priori. Si on peut dire utile tout ce qui n'est pas nécessaire, alors toute production contingente et possible par hypothèse est utile, peut être dite utile, y compris la production nuisible et injuste. La recherche et la production de l'utile ne sont pas en elles-mêmes limitées. L'utile est juste tout ce qui n'est pas nécessaire, et c'est la condition humaine. La limite, si elle doit être posée, ne peut l'être par conséquent que par un arrêt extérieur mis, si j'ose dire, à l'entrée des forces supplétives qui sont productrices de l'utile. Mais à la vertu de cet arrêt lui-même, à la vertu propre, si vous voulez, à la démarcation entre toutes les utilités, par définition possible, celles qui sont nuisibles et celles qui sont injustes, et dont il faudrait justement à ce moment-là s'empêcher, hein, il faut arrêter, hein, il faut un arrêt qui arrête. À la vertu de cet arrêt lui-même, et c'est ça la deuxième source de difficulté, il faut précisément ouvrir l'esprit. Il faut des conditions d'ouverture de l'esprit ou des esprits l'intérêt qu'il y a pour nous, éventuellement, d'arrêter certaines productions. L'entrain des forces productives, comme j'ai dit, ou des forces supplétives, comme vous voudrez, comme j'ai dit il y a quelques secondes. Cette ouverture de l'esprit à la vertu de l'arrêt, dans certains cas, cette ouverture de l'esprit qui se réalise dans un champ de parole, qui ne peut se réaliser dans toute cette considération que dans un champ de parole, cette ouverture, elle définit chez Aristote le sens de la politique, à savoir repérer dans les utilités qui sont produites ce que cette production, par ailleurs tout entière vouée à sa propre puissance et à sa propre avancée, ne repère pas spontanément, à savoir, je répète, le nuisible et l'injuste. Merci beaucoup, parce que je vais revenir tout à l'heure sur le nuisible et l'injuste, que je pense justement que c'est peut-être une partie du problème, c'est que, d'une certaine manière, aujourd'hui, nous aurions tendance à ne pas lier, nous pouvons avoir tendance à ne pas lier ces deux notions, le nuisible et l'injuste, et donc à définir le nuisible en ne posant pas, si j'ose dire, au bon moment, la question du juste et de l'injuste. Donc, disons, la vertu de la politique, c'est d'arrêter, par définition, par le biais d'une définition du nuisible et de l'injuste, c'est d'arrêter les avancées dans le monde de l'utilité, hein, auquel, par ailleurs, il faut bien que nous nous vouions, hein, que nous consacrions. Alors, c'est là que se marque toute la difficulté d'être l'être auquel l'animalité ne suffit pas, donc l'animal politique, le vivant voué aux utilités. Car, comment, je l'ai introduit déjà tout à l'heure, comment cet animal sera-t-il responsable de sa vocation, sinon en second lieu ? Il faut bien que des utilités soient réalisées, c'est-à-dire produites, pour que l'humanité puisse, en un autre sens du verbe, réaliser ce qu'il en est de ses utilités. Pour cela, pour qu'elle réalise ce qu'il en est de ses utilités déjà avancées, il faut qu'elle les parle, il faut qu'elle les questionne, il faut qu'elle les discute, il faut finalement qu'elle en fasse l'objet d'un arrêt. Cette condition de l'utile qui exige que la parole soit entamée par un fait, par une avancée de fait, est évidemment intrinsèquement problématique. Et cette avancée de l'utile qui entame par un fait, de toute façon, la parole, elle n'exclut pas, il me semble, j'espère le faire entendre dans cette proposition, elle n'exclut pas une forme de violence, qui est finalement l'installation du fait dont on parlera. Cette violence, bien sûr, ça n'est pas la violence spectaculaire du souverain, dont je parlais la fois précédente, hein, en évoquant le grand roi. Hein. Cette violence, ça n'est pas la violence spectaculaire du souverain, ça n'est pas une violence exposée comme la violence souveraine, ça n'est pas une violence qui se manifeste comme se manifeste la violence du souverain. Hein. Je pourrais même à la limite dire que ça n'est pas une violence manifeste. Il n'y a pas de manifeste de cette violence. Elle ne se constitue pas de victoires qui font des vaincus, mais d'avancées qui font des victimes. Et il me semble, c'est une proposition évidemment à discuter, il me semble qu'on peut aller chercher la marque de cette violence du côté de ce que Jean-François Lyotard a appelé strictement indifférent, et en marquant bien la différence qu'il y a entre indifférent et un litige. C'est-à-dire, précisément, indifférent, si vous présentez les choses, ça n'est pas un litige déclaré, c'est-à-dire, ça n'est pas déclaré. Et je me souviens qu'au début du différent, Lyotard pose cette question de savoir, je traduis moi à ma façon, hein, il ne le dit pas comme ça, comment relever indifférent, comment libérer l'énergie politique possible d'indifférent. Comment ne pas le trahir ? Ça, c'est un mot qu'il y a dans le texte de Lyotard. Comment ne pas le trahir ? Tels sont les problèmes, donc, que posait Lyotard. Pour ma part, bon, dans un livre, évidemment, j'avais pris ce titre spécialement, le différent esthétique, j'ai eu le projet de montrer, dans toute cette affaire, la responsabilité du champ artistique dans... justement, la responsabilité du champ artistique, ça pourrait être précisément d'être au nombre de ces conditions qui permettent de relever indifférent sans le trahir. Ça serait, pourquoi pas, quelque chose de cet ordre-là qui serait en jeu dans le champ artistique, ou qui pourrait l'être dans le champ artistique, avant d'être, je répète, immédiatement une question politique. Donc j'avais ce projet-là de dire que c'est peut-être la responsabilité du champ artistique de faire son affaire en entretenant lui-même en son sein des différents, c'était ma thèse, de faire son affaire du différent de telle sorte que la question politique et l'énergie politique qui peut se situer dans tout cela, qui n'est pas, je répète, de l'ordre d'une lutte, au moins dans un premier temps, donc que toute cette énergie ne se perde pas, ne s'égare pas. Donc, il y aurait peut-être une responsabilité du champ artistique dans cette affaire. Comment dire, celle de s'intéresser à la valeur et aux conditions d'une élaboration, je dirais, à la fois parapolitique et para-économique des avancées de l'utile. Peut-être ça pourrait être une façon très, très complexe de définir la responsabilité artistique dans un domaine qui est à la fois parapolitique et para-économique, d'élaborer, on va dire, quelque chose. Pour rester extrêmement général, élaborer quelque chose qui permette, au-delà de soi, de mettre en question les avancées de l'utile, ou les avancées dans le domaine de l'utile. À cette élaboration convient, à cette première forme d'élaboration convient, à mon sens, plus que le concept de mimesis ou de représentation, celui de distanciation. Peut-être faut-il que nous ayons affaire à, on va dire, des productions parapolitiques et paraéconomiques qui nous permettent de nous distancier de ce qui nous arrive, tout en entretenant, si vous voulez, ce qui est en question. Je pense en substance que la possibilité de parler en politique se décide ou se noue dans ce genre de conduite technique pour lequel la poétique a été autrefois une instance, mais dont il faut peut-être désormais pousser la notion au-delà des modalités et des fins qui lui ont été, à la poétique, traditionnellement associées. Qu'en est-il en tout cas de cette instance, de sa valeur et de sa chance ? C'est la question dont je voulais, pour ma part, établir la condition critique générale dans mon livre. La liberté de la parole et de la politique à l'égard des utilités passe par une élaboration des conditions de l'expérience, expérience ouverte à tout moment par la donne technique. La liberté de la parole et de la politique à l'égard des utilités suppose un traitement de la sensibilité contingente formée à chaque avancée de la technique. Suppose la liberté de la parole et de la politique un traitement de la sensibilité formée par la donne technique. Elle suppose une sorte d'exercice de ces formes de sensibilité. Mais cette situation peut toujours se retourner. Alors, je vais donner ici, de toute cette affaire, un exemple très circonstanciel. Et après la grande concentration que je viens de vous imposer, je vais donner un registre d'exemple qui est extrêmement circonstanciel, mais qui me semble, justement par sa banalité apparente, poser le plus concrètement possible le problème que je voudrais poser. Le samedi 20 octobre 2006, j'ai écouté à la radio une émission qui s'appelle Masse Critique sur France Culture. Ce samedi-là, Pierre Bélanger, PDG de la radio Skyrock, longuement interrogé au cours de l'émission, évoquait le caractère moderne du rap. Je n'ai fait qu'écouter. Je dirais que c'est sans surprise pour nous qu'il a pu évoquer la valeur de renouvellement de ce genre poético-musical, qui est lui-même d'ailleurs en constant renouvellement, c'est-à-dire, c'est sans surprise au fond qu'il a pu évoquer le rapport possible de cette musique à une sorte de modernité. Mais en même temps, il voulait aussi établir, par ce propos, et il l'a dit, le caractère également moderne, non pas du rap, si vous voulez, en tant que genre artistique, mais le caractère moderne de l'entreprise Skyrock, c'est-à-dire de l'entreprise radiophonique dont il est le PDG. Donc, c'est pas seulement la musique diffusée par la radio Skyrock qui était présentée comme moderne, c'était la radio elle-même. C'est-à-dire, finalement, une technique de présentation de quelque chose. Pierre Bélanger expliquait à cette fin-là comment sa radio avait su profiter de la loi sur la francophonie et le quota de chansons françaises, je mets ça évidemment entre guillemets, à diffuser sur les ondes. Cette loi a paradoxalement, et ce paradoxe était, on ne peut plus, comment dire, assumer, hein, cette loi a paradoxalement abrité l'expansion du rap français, auquel le nom de français, paraît-il, convient. Il a fallu, a dit lui-même Pierre Ballanger, jouer, je le cite, à la marge de la loi. Pensant au devenir moderne, à mon avis, malgré elle, de nations souveraines, hein, de ces nations dont la souveraineté nationale est mise à mal par la modernisation et qui, je renvoie à toute la discussion avec Fethi Benslama, réagissent selon un mode souverain, hein, ou sont susceptibles de réagir selon un mode souverain, donc pensant au devenir de ces nations souveraines dans lequel, au fond, je dirais, s'immisce ou s'infiltre d'une certaine manière, le moderne en jouant à la marge. Hein, voilà pourquoi je cite l'exemple qui apparemment n'avait rien à voir de Pierre Bélanger parlant de sa radio. Pensant donc à cela, je crois utile de suggérer justement l'intérêt d'une généralisation du propos de Pierre Bélanger. L'esprit d'utilité peut-il faire autre chose que de pousser au déplacement des limites établies et de miner tout état politique fixé, c'est-à-dire en fait tout état? Alors là, moi qui ai mon texte sous les yeux, c'est facile pour vous, ça l'est moins. Dans la première fois, je dis le mot état avec une minuscule, la deuxième fois avec une majuscule. Hein. C'est-à-dire, je reprends ma phrase, l'esprit d'utilité peut-il faire autre chose que de pousser au déplacement des limites établies, donc des lois si vous voulez, et miner tout état politique fixé, hein, c'est-à-dire l'état de la politique fixé par des lois et miné, et en fait ça mine tout état, au sens cette fois de l'état avec une majuscule. Est-ce que l'utile peut, autrement dit, est-ce que l'avancée dans le domaine de l'utile peut s'accommoder de une étatisation fixe d'un état stable. Pour l'esprit d'utilité, par essence, il n'y a pas de limite a priori, je dirais, ni naturelle ni légale. Le rapport de cet esprit à la légalité morale en général ne peut pas, par conséquent, ne pas être problématique. J'insisterai ce soir plus particulièrement sur un aspect de cette situation, à savoir le risque où elle met d'une réaction étatique susceptible d'excéder le politique. Alors, c'est une phrase autour de laquelle je propose qu'on réfléchisse, si vous voulez, cette idée, le politique s'excède. Hein, le politique est excédé, hein, même on peut dire ça comme ça. Il est excédé, mais il peut l'être de deux façons. Hein, il est excédé au sens où ça va pas, quoi. Il est excédé et réagit. Hein, et on peut aussi dire il est excédé, c'est-à-dire il est débordé. Hein, ça se passe évidemment au-delà, si vous voulez, de quelque chose qui est de l'ordre d'une réaction étatique possible. Donc j'insisterai sur cet aspect-là, le risque où l'avancée, si vous voulez, a priori sans limite dans le domaine de l'utile, le risque où cette avancée met d'une réaction étatique susceptible d'excéder le politique, c'est-à-dire d'une réaction qui, par conséquent, aurait en vue le rétablissement de la souveraineté. Je précise pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là la fois précédente, que j'ai proposé d'appeler, si vous voulez, souverain, une forme de manifestation du pouvoir qui serait, en un certain sens, historiquement pré-politique, en tout cas par rapport à la situation que j'évoquais, Aristote d'une part, Hérodote d'autre part. On peut lire dans Hérodote l'histoire de la défaite d'un monde organisé autour des pratiques de la souveraineté, par un monde organisé autour des pratiques de la politique. Mais un monde organisé autour des pratiques de la politique, c'est forcément, c'est ce que j'ai essayé de nouveau d'expliquer, ce soir, un monde qui est lié, hein, c'est un monde de la loi en second temps, hein, ce qui n'est pas le principe a priori du souverain. Alors il se peut que devant, si vous voulez, les avancées du monde de l'utile qui requiert de la politique, lié en fait par cette espèce d'instabilisation constante, une réaction qui excède une réaction étatique qui excède au fond la notion même ou l'idée même de politique et qui, c'est une réaction au sens propre du terme, et qui rétablit par conséquent de la souveraineté absolue et indiscutable, hein, qui ne sera pas discutée. Ce cas d'excès, auquel il faut toujours penser, hein, donc il faut toujours penser le risque, ce cas d'excès, c'est, si vous voulez, l'état d'exception à la loi parlée, à la loi constamment élaborée et fondée, réélaborée et refondée dans une parole. Cet état excessif risque de se réaliser, ou peut-être se réalise déjà, faute de parvenir, devant l'ampleur des poussées dans le contingent d'une part, et en l'absence d'élaboration de l'expérience d'autre part, cet état risque cet état risque de se réaliser faute de parvenir à un arrêt concernant la démarcation donc de l'utile et de nuisible, ainsi que du juste et de l'injuste. La grande idée, c'est que, mettons dans l'hypothèse d'une, sinon absolue, en tout cas provisoire, incapacité à formuler la distinction entre l'utile et le nuisible, nous pouvons être dans une situation qui produit une réaction politique, je dirais même d'une réaction étatique plutôt, qui excède le politique. C'est une possibilité. Mais n'oublions pas, je vais y revenir très rapidement, également l'incapacité à formuler quelque chose qui serait de l'ordre d'une démarcation entre le juste et l'injuste. Mais dans cette situation, on peut imaginer donc que pour, si vous voulez, d'une certaine manière, laisser les progrès dans le monde de l'utilité et de la contingence se faire, il faille pour cela une réaction étatique qui aille dans le sens de la souveraineté absolue. Cette éventualité de l'état d'exception peut aujourd'hui s'établir par glissement progressif dans le droit de propositions susceptibles de reconstituer une absolue souveraineté. Je pense que de ce point de vue, le livre d'Agamben, L'état d'exception, n'est pas totalement étranger à notre sujet. Mais je crois que, donc, je pense qu'il faudrait évidemment discuter autour de cette proposition. Hein, la thèse d'Agamben, c'est de dire que, en fait, l'état d'exception est l'état permanent. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où nous avons à la fois une situation de souveraineté absolue, qui n'en a pas l'air, bien sûr, mais qui est néanmoins fondée en droit, et en même temps une situation d'avancée dans le progrès, dans le monde de l'utile, selon la formulation que je vous propose ce soir. Avancée qui est, d'une certaine manière, justement, irrépressible. Bon, on peut envisager cette hypothèse. On peut aussi, et ce serait alors, peut-être un autre débat, hein, une autre façon de poser le problème, lier toutes ces réflexions à un débat sur l'enjeu du principe de précaution. Je crois qu'il est utile d'ouvrir un débat sur cette notion. De toute façon, il est ouvert autour de nous, hein, par exemple par Jean-Pierre Dupuis. Car l'introduction du principe de précaution peut être liée à une autre solution, si j'ose dire, du progrès, à une autre façon de trouver une solution pour les situations qui connaissent le progrès, l'avancée dans le monde de l'utile, etc. L'introduction du principe de précaution peut être liée à une autre solution du progrès, solution qui irait dans le sens, je dirais, d'une seconde sorte d'excès du politique, à savoir l'instauration d'un pouvoir et d'un contrôle qui serait moins intendu et moins réactif, si vous voulez, et où libre cours serait laissé aux inventions utiles désormais non jugées. Il y aurait un automatisme du progrès. Ce pouvoir procède de l'exclusion réciproque de l'action et de la prudence. Alors j'ai trouvé, pour parler de l'action, une petite note, enfin un morceau de texte que je ne peux pas ne pas vous citer ce soir, dans le livre de Jean-Pierre Levade, Le capitalisme total. Il est dit ceci à propos de l'action. Le droit de vote n'intéresse pas l'actionnaire isolé comme instrument de souveraineté, mais parce qu'il est monnayable. Dividendes et plus-values sont, de la pseudo-démocratie à laquelle on convie l'actionnaire, les seules valeurs accessibles. Ce qui m'intéressait, c'est que Jean-Pierre Levade ait pensé pour définir le droit de vote de l'actionnaire dans la société, il ne s'agit pas immédiatement de politique, mais d'une forme, si vous voulez, de vote, dans lequel finalement le vote n'est pas compris comme un instrument de la souveraineté, mais un élément monnayable. Hein, et on appelle ça finalement, on lie ça à la notion d'action. Et donc je crois que c'est toutes ces questions qu'il faut reposer. Hein, qu'est-ce que c'est que la valeur d'une action? Qu'est-ce que ça veut dire une action dans le monde d'aujourd'hui? Donc peut-être pour être plus clair dans la conclusion, je vais reprendre cette idée autour de l'introduction d'un débat sur le principe de précaution. Il me semble que donc l'introduction de ce principe peut être liée à une solution qui irait dans le sens d'une autre sorte d'excès du politique, d'autre façon d'excéder le politique, qui procéderait par l'instauration d'un pouvoir et d'un contrôle finirait par retenir le progrès, faute paradoxalement de pouvoir l'assurer. Il me semble qu'autour du principe de précaution s'affirme la possibilité du passage à un monde qui serait au fond contrôlé par la calculabilité, au point de ne pouvoir laisser s'avancer de nouvelles utilités. Tout ce qui serait susceptible de s'avancer serait au fond a priori interdit, faute de pouvoir être assuré. Alors est-ce que ça n'est pas là une autre façon d'excéder la politique que celle qui consiste, et qu'on connaît, si vous voulez, historiquement par les expériences du XXe siècle, à se replier sur les formes de l'État souverain, ou sur des éléments de l'État souverain. Alors, je crois que c'est donc à discuter. Je n'ai pas de thèse à suggérer tout particulièrement, je fais simplement une proposition d'analyse pour construire. Contribuer peut-être simplement à la mise en forme de ce débat tel que je l'envisage, je vous suggère, ou je vous signale, ou je vous propose, pour achever cette présentation, qui lui est trois champs de questions. Trois champs de questions. Premièrement, j'appelle, ou je vous propose d'appeler urbanité. Autrefois, on aurait dit oikos, ou quelque chose de ce type-là, je propose d'appeler urbanité le champ d'expérience au sein duquel s'effectue la mise en œuvre des utilités. C'est dans l'oikos que se produit l'avancée dans le monde de l'utile. C'est à propos de ce champ, donc, l'urbanité, l'oikos, que dans l'idéal s'élabore la parole politique. Celle-ci n'étant alors pas essentiellement vouée, et je continue à m'intéresser à la voie de pensée ouverte par Aristote dans la politique en disant ça, c'est à propos de l'urbanité, si vous voulez, et de ce qui s'y joue en termes d'avancée dans l'utile, que s'élabore la parole politique, alors celle-ci n'est pas essentiellement vouée, ou en tout cas pas seulement vouée, à la désignation de l'ennemi, ni à la fixation de l'identité d'une communauté particulière, à la dénomination du « nous ». Elle n'est pas essentiellement ou pas seulement vouée, en tout cas, à la définition d'un « nous » qui serait distinct des autres, mais elle est vouée, à ce moment-là, à la démarcation aussi universelle que possible de l'utile et du nuisible, du juste et de l'injuste. Je l'ai déjà dit, j'y reviens une dernière fois. Quel est, dans ce champ-là, dans le champ de l'urbanité, quel est dans ce champ qui n'est pas, qui est ce à propos de quoi de la politique qui n'est pas essentiellement vouée à la désignation de l'ennemi est possible, quelle est dans ce champ-là la nature des expériences formées par le progrès des utilités. Dans quelle mesure et de quelle manière ces expériences sont-elles visibles? Autrement dit, on peut simplifier la formulation, de tout ce qui se forme d'expérience dans le champ de l'urbanité, qu'est-ce qui est visible, hein? Et est-ce qu'on peut poser aujourd'hui que ces expériences sont a priori visibles? C'est ce dont je ne suis pas sûr. C'est ça ma première suggestion pour le débat. C'est ça mon premier... ma première interrogation. Dans quelle mesure et de quelle manière les expériences avancées dans l'urbanité sont-elles visibles? Est-ce qu'elles relèvent, ces expériences, d'un jugement synthétique? À mon sens, la réponse à cette dernière question est devenue négative. Il n'y a plus d'unité de l'expérience. Est-ce qu'elles relèvent, ces expériences, d'un autre côté, d'un régime esthétique, hein, si elles ne relèvent pas d'un jugement synthétique, c'est-à-dire, au fond, elles ne sont pas connaissables, elles ne rentrent pas dans le domaine de ce qu'une science, si on reste en tout cas sur les grandes références kantiennes, si les expériences ne sont pas synthétisables, nous ne pouvons pas les connaître. Bien. Mais alors, peut-être relèvent-elles d'un régime esthétique, hein, qui pourrait garantir, comme le propose à mon sens Jacques Rancière, la coïncidence, l'incidence en même temps de l'expérience du sensible et du dissible, hein, du vécu et du logique. Il me semble qu'avec la notion de régime esthétique, d'une certaine manière, Jacques Rancière sauve l'hypothèse que les expériences urbaines, pour le dire très très vite, c'est-à-dire celles qui appartiennent au champ d'urbanité que j'ai défini rapidement il y a quelques minutes, sauf l'hypothèse que ces expériences soient dissibles et que par conséquent il y ait une conciliation non problématique, si vous voulez, parce qu'elle est déjà posée dans le régime esthétique du vécu et du logique, du vécu et du, si vous permettez que j'invente ce terme, et du parlable, hein, du dissible. À mon sens, cette coïncidence dans l'expérience du sensible et du dissible, du vécu et du logique, cette coïncidence, l'avancée des appareils d'enregistrement, la rend extrêmement problématique. Il me semble que, en tout cas, un certain nombre d'éléments rendent cette coïncidence extrêmement problématique, de sorte qu'il n'y a pas de garantie a priori que nous puissions lier le vécu et le logique, et que toutes ces façons toutes ces notions de synthèse, représentation, etc., sont devenues des notions radicalement problématiques pour nous. Et je pense là encore qu'au fond, c'est ce qui s'exprime dans la petite phrase « Nous sommes devenus pauvres en expérience communicable ». Deuxième champ d'interrogation qui va être brièvement formulé. La désignation du nuisible relève-t-elle de savoir particulier et privé? Je dis bien particulier et je dis bien privé. C'est-à-dire, si il nous faut des savoirs pour désigner le nuisible, quel est, au fond, le statut de ces savoirs, hein? Sont-ils particuliers au sens où... nous en aurions à ce moment-là, sinon une infinité, en tout cas une pluralité telle que il faudra trouver le moyen de faire la synthèse de ces savoirs pour savoir. Et en même temps, est-ce que ce sont des savoirs privés, au sens où précisément leur énoncé ou leur énonciation relèverait non pas de l'espace public précisément, hein, mais de quelque chose qu'on pourrait appeler privé. Du tout. Vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est à cause d'une petite phrase que j'ai trouvée dans le livre de Jean-Pierre Dupuis qui, à un moment donné, dit pour exposer ce problème, la langue vernaculaire ne suffit pas. Et je dirais que c'est, parmi toutes les propositions du livre, peut-être celle qui m'a, pour ma part, le plus inquiété. Parce que quelle langue nous permet de parler le monde tel qu'il s'avance, si une langue vernaculaire ne suffit pas. C'est ça que je veux poser comme question en disant, est-ce que la désignation du nuisible relève pour nous de savoir privé? Je veux dire, de façon évidemment beaucoup plus simple et beaucoup plus ordinaire, dans quelle mesure la désignation du nuisible est-elle une affaire d'expert, hein, et dans quelle mesure est-elle, au contraire, une affaire de parole commune, hein. Alors, comment se constitue la parole commune aujourd'hui? Est-ce que la langue avec laquelle il est possible de parler le monde est encore une langue vernaculaire? Et enfin, troisième champ de questions que je vous propose, qu'on va peut-être passer après, si vous voulez, cette espèce de repérage large depuis plusieurs séances d'un certain nombre de questions, à une autre phase dans le séminaire, mais pour achever cette première phase, si vous voulez, du séminaire, aussi un troisième champ d'interrogation que je vous suggère. Est-ce que, on va dire ça pour aller vite, est-ce que nous ferions bien, si j'ose dire, si nous séparions, et peut-être je peux enlever le conditionnel, est-ce que nous faisons bien si nous séparons la définition du nuisible de celle de l'injuste? Faire du nuisible l'objet d'une délibération séparée de toute méditation sur le juste et l'injuste, est-ce que ça n'est pas contribué, en passant par la constitution de normes écologiques, par exemple, voir le protocole de Kyoto, est-ce que ça n'est pas contribué finalement à une classique réorganisation et relocalisation du pouvoir d'emmener le monde? Faire de la délimitation du juste et de l'injuste une question première, c'est-à-dire, je dirais, une question avant la distinction de l'utile et du nuisible, hein, faire de la délimitation du juste et de l'injuste une question première et au demeurant une question préalable à toute opération de justice. Hein, ça c'est pour revenir sur une discussion que nous avions également entamée la dernière fois. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre la réflexion sur le juste, disons en général si vous voulez, et la réflexion sur la justice, qui à mon avis n'est pas tout à fait ou pas nécessairement de même type ou de même registre, parce qu'on pourrait dire que finalement, d'un certain point de vue, toutes les réflexions sur la justice sont des réflexions sur, comment dire ça, sur la réparation. Hein, c'est-à-dire, ça peut être des questions là aussi pas du tout secondaires, mais des questions secondes. Hein, il faut réparer, si vous voulez, une injustice. Par exemple, si on est sur le plan économique, on va entrer dans les logiques redistributrices. Et ça, c'est des questions qui sont pensables sous le concept de justice. Mais je propose, même si je ne suis pas tout à fait en mesure de le formuler aussi clairement qu'il faudrait, de dire que dans une réflexion sur le juste et l'injuste, il y a peut-être, si vous voulez, quelque chose qui excède la question de la justice telle que je viens de l'indiquer. C'est-à-dire qu'être juste, ça n'est pas réparer une injustice. Hein? Il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'un préalable plus radical à réfléchir. Faire de la délimitation, pardon, du juste et de l'injuste une question première et préalable donc à toute opération de justice, autrement dit, ne pas penser le juste comme tenu dans une politique et une conduite de redistribution, mais comme une qualité possible des modes de production eux-mêmes. Alors, peut-être il y a des modes de production, peut-être il y a des productions et des modes de production qui sont visibles, peut-être y a-t-il aussi productions et des modes de production qui ne sont pas justes, hein, qui sont injustes. Donc c'est une qualité possible d'un mode de production d'être injuste, en tant que tel. Bon. Est-ce que donc faire de la délimitation du juste et de l'injuste une question première, pardon, est-ce que ça n'est pas aussi définir la condition d'une économie acceptable? C'est-à-dire, la condition d'une économie acceptable n'est pas seulement définie par le fait que cette économie ne serait pas nuisible. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de parler en ces termes, d'ailleurs, il faut dire quelque chose cette fois d'un peu plus... un peu moins reçu, si vous voulez, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de parler en ces termes, de parler en termes d'acceptable plutôt qu'en termes de durable, pour aller au vif des questions. Au-delà de la situation technique de l'époque, de notre époque, qui fait que la durée est à penser, à mon sens, davantage dans les codes que dans les choses. Alors ça, c'est une thèse que j'ai essayé de soutenir dans un tout petit livre qui s'appelle Faire Flash. Je commençais plutôt à essayer de soutenir cette thèse-là, c'est-à-dire, on peut réfléchir assez banalement par des, en passant par des questions qui intéressent les musées, hein, qui sont chargés de la durabilité, si je veux dire, des œuvres. Bon, les œuvres, disons, contemporaines sont peut-être des œuvres, il n'y a pas que d'ailleurs les œuvres, enfin, puisque je parle de ça, sont peut-être des œuvres dont il faut envisager de transmettre, non pas, si vous voulez, la réalité matérielle, mais les codes. Hein. Et donc, ce qui est de l'ordre de la durée, peut-être aujourd'hui est à penser davantage du côté des codes que des choses, peut-être. Hein. Donc, bon, au-delà de cette situation technique qui reste à méditer et qui peut-être ferait que la durée relève désormais davantage des codes que des choses, au-delà de cela, le durable n'est peut-être pas une notion accordée aux principes philosophiques qui fondent l'idée même de politique. Il semble que ce concept est extrêmement problématique. Alors, moi, je n'arrive pas à ne pas le trouver problématique. Et est-ce que l'idée même de politique, telle que nous la pensons depuis qu'elle fait sens pour nous, n'est pas liée précisément au fait qu'il y a de l'avenir et que, par conséquent, le durable est en soi une notion problématique? Il me semble que les remarques que j'ai pu faire concernant donc l'ouverture existentielle de l'humanité et la vocation de l'humanité obligent à considérer ce genre d'hypothèse. Voilà. Je vous propose que nous les considérions, ces hypothèses, sous forme de discussion désormais.
Quelque chose qui peut faire écho, enfin, en tout cas moi qui m'a immédiatement fait penser au livre de Marx sur le 18 Brumaire, et d'une certaine manière la manière dont Louis Bonaparte s'inscrit lui dans du durable et renverse l'avenir par la restauration et par le fantôme politique tel que Marx l'étudie dans cela. Bon, pour faire une sorte d'articulation là comme ça, très 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 politique à la chose. Enfin, moi j'ai eu écho à ça dans ce que tu disais.
Mais j'ai peut-être pas saisi ce que tu veux, ce sur quoi tu veux m'inviter.
Non, mais c'est simplement parce que je trouve intéressant, si tu veux, dans la manière dont tu travailles la question du durable par rapport à la question de l'avenir, et comment finalement la question politique de la prise de pouvoir de Louis Bonaparte, analysée par Marx, joue sur la question d'une restauration et finalement d'une forme d'avenir d'une forme politique qui ne se pose pas comme avenir mais qui se pose comme répétition du passé.
pareil.
Est-ce que c'est parlable, ce que je veux dire?
Je suis désolé pour ce mot, hein, parlable. Je ne suis pas très fier de ça.
La durabilité, c'est la question d'Anna Arendt. C'est la grande question d'Anna Arendt. Et c'est, elle fonde le politique sur la question de la durabilité. Moi, je suis pas un Arendtien, je ne suis pas un spécialiste d'Arendt non plus, mais je pense que rien n'est possible politiquement chez Arendt s'il n'y a pas de durabilité, à mon avis. Cette question de la durabilité, par ailleurs, il faut s'en méfier évidemment parce qu'on parle de développement durable. Bon, c'est un mot ultra en ce moment. Alors moi, je suis en train de sortir un truc qui s'appelle l'investissement durable. Je suis en train d'écrire quelque chose qui essaie de montrer que tout ce discours sur le développement durable sert à masquer la vraie question qui est l'investissement durable. C'est-à-dire par là que le grand problème actuel de l'environnement et de la vie commune, ici durable voulant tout simplement dire quand même transmissible. C'est ça que ça veut dire durabilité. C'est ça que ça veut dire chez Arendt, c'est ça que ça veut dire chez Platon. Chez Platon, ça s'appelle pas la durabilité, mais c'est la persévérance de l'être. C'est l'être, ça s'appelle l'être. Bon. L'être, ça dure. Devenir, ça dure pas. Bon. Comment se fait-il qu'il y ait une opposition chez les Grecs entre l'être comme ce qui dure? On pourrait aussi parler de la durée de Bergson. Que la durée a une durabilité, bien entendu, sinon elle ne serait pas une durée. Et la géométrisation, enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails compliqués. Mais en tout cas, j'essaye, moi, en ce moment, d'avancer l'idée d'un investissement durable en posant que. Bah, pourquoi est-ce que j'ai réalisé ça? C'est parce qu'il y a 15 jours, dans Le Monde, j'ai lu un article sur un responsable du développement durable, la Société Générale, ou je ne sais plus où. Et qui disait, messieurs les patrons, le développement durable, c'est rentable. Ça mérite qu'on investisse dedans, etc. Bon. Mais en même temps, c'était un discours absolument lamentable. Parce que le grand problème de la durabilité aujourd'hui, si on veut prendre ce mot, qui est un mot, c'est que le capital n'investit plus du tout durablement dans les entreprises, et le capital financier, il y va, il n'y a plus de, je sais plus quoi, de pile ou. Il y va, il prend tout ce qu'il peut et il s'en va. Donc, alors là, il est dans la non-durabilité, de manière tout à fait évidente. Mais moi, j'appelle ça l'incurie. Si il est vrai que ce qui est durable, pour moi, la question de ce qu'on appelle d'habitude le durable, c'est ce qui doit faire l'objet de soins. Et que le soin, ça se dit cura, en latin. Et ce qu'on appelle l'incurie, c'est l'absence de soin. On est dans une société, tu parlais d'oikos tout à l'heure, tu disais, on n'aurait pas dit urbanité, on aurait dit oikos. Bah, oikos, c'est le radical commun à économie et à écologie. Et l'oikos, c'est ce dont il faut prendre soin. C'est comme ça que c'est défini. Et l'économie, au départ, c'est les soins portés au milieu dans lequel on vit. En tout cas, moi, je ne jetterai pas la question de la durabilité comme ça, par-dessus la fenêtre, parce que je crois que c'est le cœur de la question philosophique. C'est le cœur. Alors, cela dit, ce n'est pas tellement là-dessus que je voulais réagir, même si ça me paraît fondamental. Je trouvais très intéressant ce que tu disais sur justice et injustice des modes de production. Parce que moi, je crois qu'il y a des modes de production qui sont justes et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est effectivement pas la même chose que nuisible. Il peut y avoir des modes de production qui sont moins utiles, mais plus justes. Donc il ne faut surtout pas confondre nuisible et injuste, utile et juste, c'est tout à fait évident. Et en effet, il ne faut pas non plus dire les utilités, les modes de production, c'est du côté des utilités et des nuisibilités, si je puis dire. Bon. Et puis après, il y a. Non, c'est. Mais si on veut dire ça. Sachant que par ailleurs, pour moi, le calculable et l'incalculable, pardon, le juste et l'injuste, c'est la question du calculable et de l'incalculable. Enfin, non, je dis des bêtises. Le juste et l'utile, c'est la question de l'incalculable et du calculable. Le juste n'est pas calculable. Pour moi, c'est la base de la question du juste. Alors que l'utile l'est. Cela étant, dans tout ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'a un peu fait problème. Beaucoup même. Et qui vient de la façon de parler de l'utile, qui désigne souvent chez Aristote le contingent, pas simplement l'utile. Il se trouve que l'utile est contingent. Pourquoi se trouve-t-il que l'utile est nécessairement contingent chez Aristote? Eh bien, c'est parce que chez Aristote, l'utile, c'est la technique, justement. Et la technique, ce sont les pharmaka, donc les artefacts. Et par conséquent, c'est nécessairement ce qui n'est pas absolument nécessaire, si je puis dire. Et pourquoi est-ce qu'il développe tout ce discours? C'est parce qu'il cherche à distinguer d'un côté l'épistémé et de l'autre côté la technique. Il cherche à fonder ce qui était une opposition chez Platon, et dont lui ne fait plus tout à fait une opposition, mais une distinction. Et en quoi il dit, la techné, on peut la définir comme ce qui est contingent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce qui ne peut pas faire l'objet de démonstration. Ça n'est pas apodictique, ça n'est pas du côté du raisonnement apodictique, ça n'est pas du côté du raisonnement ça n'est pas régi par le principe de non-contradiction, c'est donc historique, c'est donc dans le devenir, etc. Alors, à partir de là, en effet, je crois que tu as raison de dire... Enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu dire, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai entendu, mais j'ai peut-être mal entendu. Que, quand tu as dit la parole et la liberté viennent après, sont pas secondaires, mais viennent en second lieu, par rapport aux utilités, et évidemment, c'est fondamental, là, de dire, on parle de la technique. On parle de la technique. Et on parle... donc des pharmaka. Je dis que c'est fondamental de le dire, pourquoi? Parce que ça renvoie très précisément à ce mythe que je n'ai pas cessé de citer depuis 20 ans, qui est le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Parce que c'est exactement ce que raconte Protagoras. Protagoras dit, il y a d'abord eu l'oubli on n'a pas donné de qualité, défaut de règle, c'est ce que tu appelles défaut de règle. On a oublié de donner une règle. Les ruminants ont leurs règles, les léopards ont leurs règles, bref, tout l'étant vivant a ses règles. Ces règles, on peut appeler les règles de prédestination. Ce qui fait que ces êtres-là ne sont pas en charge de leur propre vie, ils n'existent pas, ils vivent. Ils n'ont pas d'existence. Ils ne sont pas dans l'existence, c'est-à-dire ils ne sont pas jetés hors d'eux, ils ne sont pas dans l'être jeté, comme dirait d'ailleurs. Mais si c'est comme ça, c'est parce qu'ils sont techniques. Et le deuxième coup, la secondarité dont tu parlais tout à l'heure, chez Protagoras, elle arrive, et elle arrive comme étant le coup d'Hermès. C'est-à-dire, puisque ces êtres n'ont pas de règles a priori, définissant leur mode de vie, alors ils se font la guerre, ça c'est ce que raconte le mythe, ils se entre-détruisent, etc. Donc il faut inventer la politique. C'est exactement... L'objet du dialogue Protagoras, c'est un conflit entre Socrate et Protagoras, où d'un côté Socrate dit le politique c'est l'affaire des philosophes, donc pas n'importe qui, c'est l'affaire des, appelons ça des experts, si tu veux, même à la limite, hein. Et puis Protagoras répond pas du tout, c'est l'affaire de tout le monde, sinon c'est pas la politique. Et alors il essaye de prouver ça avec cette histoire en disant qu'il y a eu ce défaut de règles qui a eu lieu par la technicité, et que du coup, Zeus a dû envoyer Hermès, mais Hermès avec l'écriture, qui est une autre utilité, qui est une autre technicité. Et évidemment, là, Aristote ne le dit pas. C'est là où s'arrête mon aristotélisme. Parce que moi, je suis très foncièrement aristotélicien. Mais, là, je le quitte. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de le montrer dans le traité de l'âme, ce qu'il appelle la noèse, c'est-à-dire l'acte noétique, le passage à l'acte noétique, chez Aristote, ne peut pas être une technèse. parce qu'il reste platonicien, malgré tout, sur ce plan-là. Et je pense que c'est là que ça flanche, Aristote. C'est là que ça s'effondre et que ça reste finalement insuffisant pour nous. Mais, évidemment, c'est extrêmement précieux, tout ce qu'il dit. En revanche, ce qu'il dit dans le Péripsychès, dans le traité de l'âme, c'est que nous sommes noétiques en puissance, mais uniquement par intermittence, et que nous avons tendance structurellement à toujours régresser au niveau sensitif. Et ça me paraît absolument fondamental. Et j'y reviens pourquoi ? C'est parce que, je reviens sur ce que tu disais tout à fait au début, c'est-à-dire dans ta synthèse de la séance d'avant. Où tu as parlé de la volonté, et tu disais espoir comme préalable à la volonté, ça serait absolument d'accord avec ça, moi. Sachant que l'espoir, pour moi, doit se penser avec le désir. Et que je ne peux espérer que dans ce en quoi je crois, et je ne peux croire que dans ce que je désire. Je ne peux pas croire dans quelque chose que je ne désire pas. Pas possible. C'est pas une croyance, c'est une éventualité. Mais si on appelle croire le fait de poser contre toute évidence l'existence, la nécessité, j'appelle ça moi la consistance des affaires, d'une chose, alors même qu'elle n'existe pas, justement. Et c'est là qu'il y a de l'espoir. La question de l'espoir ne peut se poser que dans il ne peut y avoir d'espoir que pour des choses qui ne se calculent pas. Sinon, c'est plus un espoir, c'est une probabilité. Donc je ne peux espérer que dans quelque chose que je ne peux pas prouver. Sinon, c'est plus un espoir. C'est soit une probabilité, soit un savoir. Je sais que au pôle Nord, il fait froid. Je ne crois pas qu'il fait froid au pôle Nord. Je le sais. Pas du tout la même chose, pas du tout le même régime d'énonciation. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que je pense que toute l'économie aristotélicienne, y compris dans son discours sur la politique, pour le coup, avec la réserve que j'émettais tout à l'heure en disant qu'il tend à opposer noèse et technèse, même s'il revalorise la technèse dans l'éthique, Nicomaque, etc. Mais il ne va pas assez loin dans cette revalorisation. En revanche, ce qu'il pose, c'est que l'économie de tout ça, c'est le désir. Pour moi, c'est ça le truc absolument fondamental. C'est ça qui a été effacé, très grande partie, par Thomas d'Aquin, etc. Parce qu'il y a substitué une théologie, alors que c'est une économie libidinale, le discours d'Aristote. Le théos d'Aristote, c'est un objet de désir. C'est-à-dire que c'est une économie libidinale. Et du coup, il faut lutter. Je reviens, tu as dit, les classes ont disparu, ce dont je ne suis pas du tout sûr, moi, d'abord. Et, bon, oui, mais tu as laissé dire, peut-être que si on avait parlé de disparition des classes, il y a peut-être surtout une disparition de la lutte. Non. Je sais, mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec Beck. Mais je pense que la question de la modernité actuelle, puisque nous parlons des modernités, c'est la question de la nécessité, en tout cas moi, c'est ce que je soutiens comme thèse en ce moment, de ne plus raisonner par opposition, ça c'est la pensée métaphysique, mais par composition, c'est-à-dire de montrer que, par exemple, ce contre quoi je lutte, je dois composer en permanence avec, parce que si je dois lutter contre ce contre quoi je lutte, c'est d'abord parce que c'est en moi, et sinon je ne pourrais pas, même pas, ni lutter ni être affecté par. Ça c'est le fameux discours de Derrida, justement, sur Pharmacon, le supplément. Mais en même temps, il faut absolument lutter. Je pense qu'il faut apprendre d'autres modes de lutte. Et des modes de lutte qui composent et qui ne s'opposent pas. Avec des forces qui sont des forces psychiques, fondamentalement. C'est que moi, je crois que la question fondamentale dans notre époque, c'est ça que la postmodernité a fait. C'est là-dedans que la postmodernité a foutu le bordel, parce qu'à la fois c'est ce qu'elle a compris et ce qu'en même temps elle a rendu impensable. C'est que toutes nos sphères sont psychiques. Jacques Marcuse est si important, c'est qu'il dit les questions économiques du capitalisme, ce qu'on appelle la question sociale, etc., les questions politiques, ce sont des questions psychiques. Ce sont les questions du désir. Et par rapport à cela, évidemment, je reviens aux utilités, je m'arrête là-dessus. Pour moi, il n'y a pas, contrairement à ce que dit Aristote, une sphère de la contingence, c'est-à-dire des utilités, c'est-à-dire de la technique, etc. Et ensuite, une sphère. Ça, c'est comme ça qu'Aristote, que Arendt lit Aristote, justement. Et c'est précisément en lisant comme ça qu'elle défend le discours de la durabilité, d'ailleurs. Il n'y a pas, d'un côté, les usabilities, le contingent, le calculable, etc. Et puis ensuite, la liberté, la parole. Non, je ne crois pas du tout ça. Je crois que ça, c'est le reste platonicien, chez Aristote. Je crois qu'il y a des régimes de technicité. Et que l'utilité, c'est le régime régressif de la technicité. C'est le régime qui pose que la technicité se résout en calculabilité. Alors que la technicité, ce n'est pas du tout la calculabilité. Qui c'est la technicité? C'est Phidias. Il n'y a rien de plus technique que Phidias. C'est bien plus technique que Saphir qui fait les godasses d'Aristote. C'est bien plus technique que le forgeron qui fait la charrue d'Hésiode. Phidias, c'est la technicité à son sommet. Mais précisément, comme a dit Heidegger, ça au moins il a dit une chose bien, de ce point de vue-là, c'est là qu'est l'aletheia à son sommet aussi. Donc, voilà, moi, et je pense que il y a eu un refoulement de toutes ces questions de la technique. Donc, il y a eu, enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais faire, mais en tout cas, moi j'ai entendu comme ça. Tu montres que chez Aristote, ça résiste très fort. Et alors, c'est ça aussi qui m'intéresse. Moi, chez Aristote, c'est ça et le désir qui m'intéresse. Sauf que je pense qu'il n'arrive pas à les connecter suffisamment. Mais en même temps, ça a été un super refoulement. Et un refoulement par toutes les métaphysiques. Kant compris, je me suis intéressé à théorie et pratique, qui est une reprise de ce discours d'Aristote sur le contingent, où il va très très loin. En disant, il n'y a pas de technique, en gros. La technique n'existe pas, grosso modo. C'est ça que dit Aristote, que dit Kant. Et ça, c'est ce qui a été refoulé par la métaphysique jusqu'au XVIIIe siècle, mais c'est ce qui, tout à coup, a été défoulé par la révolution industrielle. C'est que tout à coup, ressort la technique avec une brutalité totalement non raisonnable, non contrôlable, non maîtrisable. Ce que n'a pas vu, d'ailleurs, le XIXe siècle, c'est ça le discours du progrès, qui a cru que c'était provisoire et qu'on allait la raisonner. Bon, Auguste Comte, le positiviste, tout ça. Et puis finalement, au XXe siècle, le déchaînement de tout ça, et ce sentiment d'impuissance qui est le nôtre. Or, pour moi, c'est un problème d'économie libidinale. Parce que, de la même manière que la technique a été refoulée par la philosophie, elle a été refoulée par la psychanalyse aussi. Et que du coup, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se penser, qui est, alors là je reprendrai ce que tu disais, la question d'après-coup. Enfin, le politique, ce que tu as appelé le politique là, ou le langage, moi je dirais que chez Freud ça s'appelle la symbolisation, et c'est toujours dans l'après-coup que ça se passe. Donc le problème c'est comment penser l'après-coup. Mais, voilà, moi je dirais, à tout ce que tu as dit, je demanderais un petit peu, c'est une requête que je fais au séminaire, qu'on le reprenne sur le terrain freudien ou post-freudien, enfin sur le terrain de la libido en tout cas. Et des pharmacas. Je dis pharmacas parce que les pharmacas, pourquoi est-ce que c'est très intéressant cette question des pharmacas pour moi? C'est parce que c'est à la fois ce qui permet de soigner et ce qui crée la nécessité de soigner. Je veux dire que les technailles, dont parle Aristote, dont parle Pantagoras, ce sont les pharmacas. Et ces pharmacas, c'est à la fois ce qui crée la maladie, comme dirait Nietzsche, c'est-à-dire l'homme est un être intrinsèquement malade parce qu'il est déséquilibré. Ça, c'est ce que tu disais à propos de l'excès. Et en même temps, il ne peut se soigner qu'avec des pharmacas. Donc, seule la technique peut répondre à la technique.
Dans mon esprit, c'est ce que je pense signaler le passage sur ce que j'appelle la responsabilité du champ de l'art, que je ne pose pas évidemment comme une responsabilité qui est.
gagner a priori son installation dans le champ de la parole. Je pense que c'est... moi j'appellerais volontiers art, justement, toute production technique qui élabore la technique elle-même, enfin dans une certaine mesure. Hein. Ce ne sont pas nécessairement des propositions qui sont aujourd'hui reconnues dans le monde de l'art, par exemple. Et même, à mon avis, justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ce que le monde de l'art aujourd'hui identifie comme art n'est pas cet art, c'est-à-dire cette technique qui travaille la technique dont j'essaye de parler et dont, à mon avis, je dirais, pour aller très vite, nous avons besoin. Donc je pense sur le fond, disons, de la prise de position dans l'actualité, je pense qu'on sera d'accord. Sur la lecture d'Aristote, au fond, probablement aussi, parce que je crois quelque chose de très intéressant chez Aristote, c'est que finalement la poiesis ne cesse d'être nommée comme par le mot techné dans la poétique. Ça c'est effectivement quelque chose qui est relativement oublié. C'est-à-dire, il s'agit d'une façon de faire avancer des objets techniques. Voilà ce que c'est que la question se repose, à mon avis, aujourd'hui, dans les conditions techniques d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui ferait problème pour moi chez Aristote, je l'ai dit en passant tout à l'heure, c'est le... il ne pouvait pas, pour des raisons qu'on comprend bien, le débat avec Platon, etc., mais si nous, aujourd'hui, nous référons de nouveau à Aristote en trouvant là, éventuellement, de la ressource, peut-être le concept problématique, c'est le concept de mimesis, hein, c'est-à-dire de faire tourner ce travail technique au profit de quelque chose qui serait nommé mimesis, et pour lequel il faut... pas chercher peut-être une autre proposition. Enfin, je crois que ces concepts-là, ces notions-là, c'est-à-dire l'idée finalement que ce qu'on attendrait de ces travailleurs, de cette technique que nous attendons, qui en cette manière double la technique, ça n'est pas forcément de la représentation, ça n'est pas forcément de la mimesis, ça n'est peut-être pas du théâtre. Il faudrait effectivement définir dans quel sens nous entendons le mot théâtre. Ça serait quelque chose d'une autre nature qui travaille l'expérience dans le sens de sa communicabilité, quelque chose de ce type-là.
Le problème de la traduction alors de mimesis par mimesis, par imitation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire par imitation, mais par représentation
au sens où les traducteurs, je ne me souviens plus de leur nom, chez Au Seuil, là, on traduit... Voilà, c'est ça. Moi, je dirais symbolisation, aujourd'hui. Je dirais symbolisation, parce que je pense que c'est évidemment une représentation, mais une représentation au sens théâtral du terme, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? Alors, en passant... Il y a un truc que c'est quand même là qui m'a vraiment posé problème dans ce que tu as dit, c'est sur le nous. Parce que je pense que je ne suis pas fidèle à Aristote. Dans tout à l'heure, sur le nous, quand tu parlais de l'urbanité, quand Aristote dit dans l'éthique à Nicomaque que la philia est la condition de toute relation politique, il parle d'un nous. Et que je pense que sans cette philia, il ne peut pas y avoir cette délibération. Bon, ce qu'on traduit parfois par délibération. La filia est le préalable à cette délibération. Et la question de la mimésis, enfin, ce qu'il appelle mimésis dans la poétique, elle est face à cette filia. Et à cette filia, elle est face à cette filia lorsque précisément cette filia est menacée de se défilialiser, si je puis dire. Parce qu'elle est menacée par les pulsions qui la travaillent de l'intérieur et qui risquent de la détruire. Quoi qu'il en soit, moi je pense que cette mimésis, là, cette représentation, c'est un processus de symbolisation. Et c'est un processus de symbolisation tel qu'il noue le citoyen en tant qu'individu, en tant qu'ego, disons, au groupe en tant que si le citoyen ne se projette pas dans le groupe, il ne symbolise pas. Bon. Et c'est tout le problème de la tragédie de reconstituer un circuit de symbolisation. Bon. Et je pense que c'est ça l'obsession de d'Aristote absolument tout le temps en politique. Alors, par rapport à ça, moi je dirais que, puisque tu parlais de savoir et du vernaculaire, enfin, tu citais Jean-Pierre Dupuis, je ne me souvenais pas de ça dans la catastrophe. Bon. Mais ça m'avait échappé. Mais moi je dirais que, ici, tu sais, je dis les savoirs sont les savoirs des consistances, c'est-à-dire de ce qui n'existe pas. Bon. Et il y a toutes sortes de savoirs de ce qui n'existe pas, dont le savoir artistique est une forme, dont le savoir mathématique est une autre, dont le savoir philosophique est une autre, mais dont tout savoir vrai, véritablement sachant, si je veux dire, ou savoureux, est savoir de quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qui n'est pas encore. C'est savoir de ce qui est à venir, savoir de l'avenir. C'est une forme, tout savoir est une forme de divination, je dirais presque. Bon. Je divine l'avenir. Divination avec ce, à la fois le devin et le divin. Et par rapport à ça, ce que tu appelais les modes de production tout à l'heure, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié la question de l'injustice, donc de la justice des modes de production. Moi, c'est une question absolument intrinsèquement de politique, d'économie politique, et pas simplement artistique. Je dirais que la question artistique en est le sommet, parce que au sens où je l'avais déjà cité, je crois ici d'ailleurs, où Milner parle du salaire de l'idéal et où on pourrait dire que l'artiste c'est celui qui veut ne travailler que de ce qui lui plaît, c'est-à-dire travailler avec son désir, faire travailler son désir, vivre de son désir. Mais d'une certaine manière, les clercs en sont tous là, tous, autant qu'on est là, ici, philosophes, gens de la culture, etc. C'est ça que nous voulons. Bon. Et nous voulons que notre mode de production, parce que nous ne considérons pas être des gens inutiles, moi je défends l'utilité du Centre Pompidou pour la République, etc. Nous ne pensons pas du tout être des gens inutiles, comme diraient les énarques, des budgétivores, etc. C'est ce que M. Sarkozy pense certainement de nous. Nous pensons que par ailleurs, nous ne sommes pas réductibles à l'utilité. Nous sommes en excès, et c'est là que nous excédons, ce que tu appelais l'excès tout à l'heure. Mais c'est là ce qui excède, c'est notre savoir qui est en excès. Et c'est ça la justesse du mode de production. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que j'ai commis un bouquin, c'était mon dernier livre, qui est paru il y a 2 mois, et dont le dernier chapitre est consacré au travail, et où je dis, le monde veut travailler, c'est-à-dire avoir des modes de production justes, et ne pas être employé, parce que ça, c'est être utile. Pur, l'employabilité, c'est l'utilité pour le capitalisme. Bon. Le travail, c'est la justesse du mode de production, c'est-à-dire c'est la nécessité... on dirait, dans un certain vocabulaire, la durabilité aussi, bon. La transmissibilité, la l'héritabilité, la patrimoniabilité, ou je ne sais pas quoi. Mais sans opposer le passé, l'avenir, l'héritage, et on avait déjà parlé de l'héritage. Tu vois ?
En tout cas, moi, je suis parmi les choses que sur Aristote, moi,
j'ai beaucoup parlé d'Aristote, d'abord parce que je pense que c'est effectivement... Il y a plusieurs raisons. Il y avait ma propre capacité à parler, finalement. Hein, c'est quand même pas... D'une certaine manière, puisque je suis là, un point non négligeable. Mais il y avait aussi le fait que... Je pense qu'il faut penser les problèmes d'aujourd'hui, dans la lignée de ce qui a été ouvert à ce moment-là. Ce qui serait ma façon à moi de prendre une certaine façon position avec la déconstruction derridienne, c'est-à-dire je crois que l'énergie, disons, de ces notions n'est pas achevée, quoi. Elle nous parle, elle nous intéresse, bon. Donc il y avait cette idée. La troisième raison était, je l'ai dit il y a 15 jours, c'était lié au fait que Fethullah Ben Slama, dans la conférence qu'il avait fait à l'invitation de Roger Rotman au Centre Pompidou, avait très explicitement marqué que aujourd'hui, dans les pays pour lesquels le nom islam fixe une identité, pour parler comme lui, dans ces pays-là, aujourd'hui encore, la traduction d'Aristote est un enjeu. Donc c'est une façon, disons, de rendre, c'était pour moi une façon de rendre hommage à ces problèmes-là. d'une certaine manière pour la même raison, même si évidemment, si je veux dire, le service ou l'utilité politique apparente de ce genre d'affirmation n'est pas immédiatement évidente, je pense que réinstruire sur certains points le débat entre Ariston et Platon nous concerne également de façon beaucoup plus importante qu'on ne peut spontanément, disons, le penser. Donc je mettais ma petite contribution à signaler cette chose-là. Bon, cela dit, il faudrait effectivement un travail beaucoup plus spécialisé et beaucoup plus approfondi. Moi je pense y a quand même des choses que... Bon, j'ai une lecture de la poétique d'Aristote qui est probablement excessive, mais aussi parce que je suis allé, dépister dans le texte grec certains éléments que je trouve la traduction de Dupont-Roc et Lalo, pour excellente qu'elle soit, ne marque pas toujours de façon satisfaisante. Alors, par exemple, où le poète trouve-t-il la matière de son travail? Une petite phrase, je crois que c'est au chapitre 17, il répond, il trouve... je propose de traduire les choses de cette manière. Il y a le verbe kinkanein qui a disparu dans la traduction, mais qui veut dire au fond que le poète, qui est un technicien en réalité, pourrait dire aujourd'hui, si je transfère aujourd'hui, je dirais un photographe ou un cinéaste. Hein, il y a un appareil de production. Le poète autrefois c'est dans son esprit, aujourd'hui c'est prothétisé, si j'ose dire, par des appareils visibles, mais au fond c'est la même démarche. Hein. Il se rend dans l'oikos, le mot figure, et là il trouve la matière de sa poésie. Il la trouve, je dirais, au hasard de ses déambulations dans l'oikos. Et à ce moment-là, il faut l'élaborer, il faut qu'elle ait une forme telle que ça s'enchaîne nécessairement quand c'est présenté au théâtre, etc., et que finalement ça produise un certain effet, je dirais, sentimental, hein, qui est la constitution chez les spectateurs d'un sentiment mêlé de crainte et de pitié. Donc il faut déjà mêler ces deux sentiments, et il faut ensuite en purger, comme vous savez, donc ceux qui auront bénéficié de cette montée en eux de ce sentiment mêlé de crainte et de pitié. Et il y a pour moi dans cette suggestion là une forme d'ambiguïté. Alors à la fois on est bien dans une logique de la représentation, parce que ça s'est déjà présenté, il faut le reformer, il faut le miner, enfin il faut le mémoriser aussi d'une certaine manière, mais de telle sorte que cette mémoire, alors je ne sais pas si c'est seulement la symbolisation qui est visée à ce moment-là, mais de telle sorte que cette mémoire soit finalement une mémoire déchargée d'un certain genre de sentiment. Moi je traduirais assez volontiers catharsis, je sais que c'est excessif de cette façon-là, en disant c'est une décharge. Hein, l'esprit est chargé, de pathos d'ailleurs, c'est le mot qui figure dans le texte, et il faut élaborer cette charge de telle sorte qu'il y ait la catharsis, c'est-à-dire la décharge. Et dans mon idée, la fonction de ce travail, c'est de libérer précisément l'esprit d'un certain nombre de souffrances, d'éléments en souffrance qui le chargent, de telle sorte que la parole soit aussi sereine que possible dans l'espace public, c'est-à-dire dans la politique. Je vois les choses comme ça. Mais là où je m'interroge, c'est justement de savoir au fond ce que le poète trouve au hasard de ses promenades dans la cité a déjà, me semble-t-il, chez Aristote, une forme d'élaboration telle que le travail mimétique, de constitution de la mimétique, est possible. La question que je me pose en revenant de façon fréquente sur cette petite phrase de Benjamin, « Nous sommes devenus pauvres en expérience communicable », c'est la question de savoir finalement ce que livre à un poète contemporain l'urbanité d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle lui livre une expérience sur laquelle il peut construire l'opération poétique d'Aristote, et par conséquent, en libérant, en déchargeant les esprits, etc., de ce qui les charge, participer à la mise en évidence d'un champ discursif politique aussi serein et aussi logique, au fond, que possible. Et je pense qu'il y a une première élaboration, autrement dit, de ce qui nous arrive au fond de l'Écosse, hein, et une première élaboration de cette expérience qui manque. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que la modernité, au sens que j'avais défini dans les séances précédentes, c'est-à-dire non pas le modernisme, hein, mais la modernité comme ce à quoi un certain travail avec la technique est voué, la modernité est nécessaire. Avant même pour rendre possible ce que toi tu appelles le travail de symbolisation. C'est-à-dire qu'il y aurait, mettons, une étape dans le travail de symbolisation qui est proprement, je crois que c'est le bon mot, esthétique, ou quelque chose de ce type-là.
Oui, c'est là qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Ouais. Parce que moi je dis, elle est politique. Et c'est ce que tu dis, enfin, je crois, hein, ce que tu
désignes comme cette modernité, je crois que c'est ce que j'appelle le double redoublement épocal. Bon. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup appelé comme ça dans le passé. Consiste à poser que l'avancée de, alors si on reprend les termes que tu utilises aujourd'hui, de l'utile ou des utilités, fait exploser les cadres constitués, bon, c'est tout ce que tu as décrit, hein. Et bon, moi j'ai essayé de montrer, en m'appuyant alors là sur des sources qui sont aussi bien la préhistoire, l'archéologie, l'ethnologie, l'histoire, beaucoup les historiens de technique, etc., mais aussi les philosophes, un certain nombre de philosophes, qu'il y a une, entre guillemets, épocalité objective, il y a une mise en suspens objective par le développement des utilités, là, pour le coup, effectivement, qui se produit, mais que dans les temps pré-modernes, sachant que, effectivement, dès le XIIe siècle, il y a de la modernité qui se constitue, et que le problème n'est pas de dire la modernité commence à telle date. La prochaine fois, j'interviendrai ici, c'est le 18 décembre, et ça s'appellera couche de modernité, au pluriel. Il se passe quelque chose qui bascule à un moment donné et qui fait que il n'y a plus, semble-t-il, de réappropriation possible, du redoublement épocal. Je dis de redoublement du redoublement épocal parce que la technique redouble une première fois et met en suspens ce qui existe. Et puis, je crois, moi, que les grands moments de civilisation ont consisté pendant des millénaires. La destruction de ce qui était avant et de produire quelque chose d'autre. Pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, c'était comme ça. À partir du XIXe siècle, ça commence à devenir de moins en moins possible. Même si le progrès croit être ça. Le progrès croit pouvoir désigner cette possibilité et s'appelle soit le marxisme, soit le saint-simonisme, soit je sais pas quoi. Puis petit à petit, on s'aperçoit que c'est pas possible. Alors, pour moi, l'enjeu, c'est l'enjeu de ce colloque, de ce séminaire, de ce colloque, fondamentalement, c'est de faire face, de relever ce défi incroyable, bon, et d'avoir l'outrecuidance de vouloir le relever, parce qu'il faut être sacrément outrecuidant. Et moi, je pense qu'il faut être outrecuidant par rapport à ça. Et de dire, si, il y a de la... Non pas de la relève, pour le coup, c'est pas de la dialectique, mais il y a de l'individuation ou de la symbolisation possible. Toi, tu dis que c'est une question esthétique. Moi, je dis que c'est une question politique. Avec ceci, que j'étais invité vendredi matin à un colloque organisé par Arte et France Culture où il est question de ces choses, et où j'ai dit, c'est quand même stupéfiant de voir... Moi, j'ai parlé il y a 3 ans de la misère, ce que j'ai appelé la misère symbolique et de la fracture esthétique, en essayant de montrer que le monde était détruit par cette destruction du symbolique, par le capitalisme. Et que finalement, tout ce discours que j'ai essayé de développer, que j'appelais la perte de participation, etc., par qui est-ce qu'il est formulé aujourd'hui? Par Ségolène Royal, qui dit il faut reconstituer de la participation politique, et qui dit, en fait, la question de la participation, c'est une question politique. Et du coup, je ne vais pas me chamailler avec toi pour dire, toi tu dis esthétique, moi je dis politique, j'ai raison, t'as tort. Mais je dirais simplement, c'est la même question. Mais esthétique, je l'entendrai à ce moment-là comme ça, à cette condition. Et du coup, ça devient une question de loi, parce que la politique, c'est de la loi. C'est de la loi au sens où on va dire, on va au Parlement, à un moment donné, il faut émettre des lois, il faut dire, on va interdire tel truc, on va obliger tel truc, etc. On va faire des clés de péréquation, on va par exemple dire, on va pas laisser la grande distribution détruire toutes les zones urbaines autour des petites villes. Ça peut plus durer, par exemple. C'est ça que j'appelle de la volonté. Bon. On va dire... il faut une politique des nanotechnologies, parce que tout ce que tu es en train de décrire, c'est les nanotechnologies. D'ailleurs, c'est en parlant de ça que Jean-Pierre Dupuy a déroulé tout son truc. Ça va bouleverser tout ça encore bien plus. Il faut des lois. Il faut des décisions. Il faut organiser un modèle économique. Il faut dire l'industrie, maintenant, doit se réorganiser comme ceci et comme ça. C'est ça l'enjeu. Alors, si c'est ça que tu appelles l'esthétique, oui. Moi, je dirais que j'aurais envie de poser que la politique dont je parle, si elle ne pose pas les problèmes esthétiques que tu poses, évidemment, c'est rien du tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais, pour moi, c'est une question politique. Et j'ajouterais peut-être, donc, esthétique. D'ailleurs, c'est pas le musée du Louvre. On parlait avec Roger ce matin des musées, de la muséologie, etc. Bon, les questions muséologiques, elles se posent depuis le Louvre. C'est-à-dire, depuis qu'on a fait de la question de l'accès aux œuvres, une question politique. Et revenons à ces trucs-là.
Je pense que tout mon discours ce soir, si je me suis bien expliqué, consiste à essayer de définir les conditions
poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que la politique ne soit pas excédée. C'est-à-dire, il s'agit bien de dire que, pour aller très très vite, la politique, l'idée de politique est nécessaire à l'idée d'humanité d'une manière générale. Je pense que c'est bien ça que je veux dire. Simplement, je pense que nous sommes dans une situation, enfin, je veux dire, à partir du moment même d'ailleurs, de toute façon, où l'être au monde a affaire à la politique, il risque aussi toujours d'avoir affaire à une situation où la politique serait excédée dans tous les sens possibles, c'est-à-dire qu'elle-même s'excède en devenant, en produisant finalement de l'État souverain indiscutable, qu'elle soit excédée par finalement des avancées ou des forces qui sont elles-mêmes dans la situation de ne pas être discutées, voire d'être indiscutable. Alors c'est ça le problème, c'est la différence entre une situation dans laquelle ce qui s'avance dans l'Holocauste n'est pas discuté, mais est discutable, et donc il faut trouver les conditions de la discussion, hein, et puis une situation dans laquelle où ce qui s'avance, donc qui serait lié par exemple à des types d'avancées techniques, soit à des modes de gestion de ces avancées techniques, c'est-à-dire à leur capitalisation. Pour dire vite, ces conditions feraient que ce qui vient faire incidence dans les conditions de vie des humains n'est pas dit, mais n'est pas dit cible. Autrement dit, si moi je fais de l'esthétique, si ce mot esthétique je m'y arrête, c'est parce que je fais l'hypothèse que, en tout cas dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, le dit cible n'est pas donné a priori. Le fait que ça soit dissible n'est pas donné a priori. Ce que, à mon avis, justement, la poétique d'Aristote ne pense pas. Et c'est là où je pense que nous avons quelque chose à découvrir au-delà de ce que Aristote... quelque chose à découvrir qui ne serait pas simplement de l'ordre d'ailleurs d'une déconstruction, mais bien d'une découverte philosophique à faire, et qui consisterait donc à dire, voilà, nous sommes dans une situation dans laquelle ce que les humains se font eux-mêmes en produisant des avancées utiles, et qui sont, moi j'insiste quand même sur le mot, qui sont des avancées utiles, eh bien ce que les humains se font à eux-mêmes, c'est de se mettre dans des situations où le disciple n'est pas donné a priori. Et c'est peut-être un travail qui aurait justement pour valeur le juste. Alors, en reprécisant bien dans cette affaire que finalement, pour aller de façon excessive à ce que je veux dire, je dirais que finalement l'être juste, ça n'est pas paradoxalement, ça n'est pas d'abord se positionner de manière juste par rapport à ses semblables. C'est peut-être cette position-là elle-même est rendue possible par le fait qu'on est juste avec l'appareil de production lui-même, avec les appareils de production eux-mêmes. C'est-à-dire que être juste avec les autres, ça passe par être juste avec la technique, avec la technique elle-même. Et quelque part, je dirais que la possibilité de faire paraître pour nous des situations qui nous permettent, comme dit très bien une traduction de Benjamin, d'engrener de la parole sur les expériences à laquelle la technique aujourd'hui nous nous attache, enfin nous lie, cette possibilité d'engrener de la parole passe par une certaine esthétique. Enfin, pour moi, c'est là que ça se joue, quoi. Voilà. Le disciple n'est pas donné a priori. Une autre manière de tourner autour de cette question, c'est de dire, selon moi, toujours, je pose ça juste comme élément de discussion, que la filia, la fameuse filia en laquelle, par laquelle, ou avec laquelle peut se dérouler une parole de type politique, elle n'est pas non plus donnée. Il faut qu'elle se constitue. Et c'est là où je pense qu'une réflexion sur la pitié, l'élaboration de la pitié, le statut de ce sentiment assez refoulé quand même dans l'histoire de la philosophie mérite peut-être qu'aujourd'hui on s'y arrête. Hein. C'est-à-dire, est-ce que des gens qui sont dans des situations impitoyables peuvent être des amis les uns pour les autres et par conséquent être des interlocuteurs politiques, quoi. Et voilà. De longue date, il me semble que si la pitié, s'il y a une origine de la pensée de la pitié, elle est justement dans le texte d'Aristote, la politique. Donc on revient aux questions de l'art quand même d'une manière ou d'une autre.
Je voulais te poser deux ou trois questions très brièvement maintenant.
La première, c'est que quand tu parles de politique, quand tu parles donc de cet espace qui est ouvert par le défaut bénéfique, évidemment, de règles a priori, tu ne parles pas de politique démocratique. Donc, c'est une absence dans ton discours sur laquelle je voudrais davantage t'interroger. Parce que, évidemment, chez Aristote, pour ceux que j'en connais, c'est évidemment pas une identification, puisque on sait les dangers qu'il voit dans la démocratie. Et évidemment, la question de la politique ne peut pas englober la question de la politique démocratique. Ça ne peut pas être conçu comme le démocratique comme une simple variante plus sympathique ou autre de cette politique. Par exemple, on peut considérer qu'aujourd'hui, une tentation dominante, chez les dominants d'ailleurs, ça serait d'essayer d'inventer une politique, de réinventer une politique non démocratique. C'est-à-dire qu'il ne soit pas prisonnière de règles a priori, mais qui justement s'émancipe des règles a priori en réduisant la politique à une oligarchie, pour aller très vite. Et qui non seulement c'est la tentation, mais qu'il en ferait la condition même de restauration d'un exercice durable, en l'occurrence, de la politique. Donc, je vois mal comment tu peux te passer de ça, sachant ce à quoi tu te réfères chez Aristote, et le type de problème auquel on peut aujourd'hui se trouver confronté. D'autant plus que l'autre tentation qu'il y a justement dans ces régimes dont parle Ben Slama, pas bien sûr les petites dictatures ordinaires, mais des choses plus élaborées, ce serait la tentative qui est ancienne, qui a existé du temps de la Révolution française par exemple, de définir une démocratie qui ne s'affranchirait pas de règles a priori. Par exemple, ce qui se passe, les tentatives plus élaborées qui se passent en Iran, qui essaieraient de définir des a priori auxquels elles ne toucheraient pas, au sein duquel l'interprétation, elle, pourrait, ou les modes d'adaptation pourraient être gérés démocratiquement, qui serait à ce moment-là pas politique. Qui serait démocratique et pas politique si on prend tes catégories. Mais je ne pense pas que tu puisses garder ce terme de politique sans voir comment il joue avec démocratique. La deuxième question que je voudrais te poser, quand tu te demandes dans quelle mesure ces expériences sont dissibles, quand tu t'interroges sur notre pauvreté benjaminienne, c'est là encore La question de datation. Est-ce que c'est un problème de la modernité ou est-ce que c'est un problème de notre modernité? Et est-ce que tu pourrais, par exemple, définir ou imaginer ou croire, à la différence du pôle Nord qui est froid, à des périodes de modernité heureuse de ce point de vue-là, où la capacité à ne pas à ce que le politique ne soit pas excédé par la technique, la capacité à dire, en dépit d'un certain nombre d'appareils d'enregistrement, dans l'occurrence, bref, c'est notre capacité, des moments où nous serions moins pauvres, ce qui d'ailleurs serait calculable, en l'occurrence, c'est le plus. Ce qui m'amène à ma troisième question, et j'en aurais fini, j'étais quand même très. Très perplexe sur le fait que le juste, c'est ce qui échappait au calcul, puisque dans la politique, justement, tu es confronté constamment au plus ou moins juste. Et donc, si c'est plus ou moins juste, c'est jusqu'à un certain point calculable, ce qui est conforté par l'expérience historique du XIIe siècle, pardonne-moi, sur le XIIe siècle, mais où justement la réémergence de la question de la justice va de pair avec la fameuse émergence du calcul, en particulier à travers la notion de proportionnalité. C'est-à-dire, le juste, l'injuste, c'est quand même ce qui est proportionnel ou pas proportionnel avec la fameuse naissance du purgatoire qui étend le champ de la justice et d'une justice concevable pour les humains à ce qui est théoriquement l'au-delà et donc empiète sur le domaine du divin. Donc, dans ce même ordre, dans le rapport entre le désir, l'espoir et le juste, le problème c'est que tu, évidemment, tu désires le juste, mais tu n'es pas obligé de désirer ce en quoi s'incarne le juste même à tes yeux. Et donc, tu as tout un élan qui est le désir de justice qui peut t'amener à lutter pour des choses dont pour la manière dont ce juste peut s'incarner, tu ne désires pas vraiment.
Ah, je ne vais pas répondre.
Voilà.
Les deux questions qui étaient plus particulièrement adressées. Bon. Il y a toujours une difficulté, naturellement, quand on sollicite un auteur, dans ce genre de travail, entre finalement rendre compte de la pensée de l'auteur et puis au fond dire pourquoi il nous intéresse, dire pourquoi l'auteur nous intéresse, il me semble que ça oblige nécessairement à une forme de traduction dans laquelle moi je vois néanmoins, ça c'est une position benjaminienne, hein, la possibilité d'une très grande fidélité, hein, c'est-à-dire par exemple, sur le cas d'Aristote, je pense que c'est ce que j'ai fait constamment, je te remercie de ta question qui me permet en tout cas de préciser quelque chose, mais c'est ce que j'ai fait constamment, c'est-à-dire j'ai opéré une traduction du texte qui me semble être fidèle à ce qui est ouvert par la pensée d'Aristote et pas forcément ouvert à toutes les... à toute la lettre du texte, enfin il y a quelque chose de ce type-là. Alors, je ne peux pas répondre complètement sur le fond, mais je dirais, si la question m'est à moi adressée, effectivement, il faudra que je le précise pour que les choses soient claires si ça ne l'est pas, je ne conçois pas que l'idée de politique puisse se passer de celle de démocratie. Voilà. C'est-à-dire, on pourrait dire les choses de manière différente en plusieurs temps. Naturellement, il y a des pratiques politiques qui ne sont pas démocratiques. Mais l'idée de politique telle que j'ai essayé de la faire travailler, d'ailleurs pas seulement ce soir, mais la fois précédente, est une idée qui, je dirais, est inventée par les Grecs, hein, qui se trouve réfléchie par Aristote, en tout cas dans les textes auxquels j'ai fait référence. Au-delà d'Aristote dans un certain sens, mais dans son esprit, attend une découverte supplémentaire, et notamment justement dans l'échange de paroles et dans la définition des sujets, si j'ose dire, fondés à parler. Et là, on va trouver inévitablement une idée de la démocratie. Au-delà même d'ailleurs de ce que les Grecs étaient capables de penser et de pratiquer, puisque dans la filia grecque, sauf erreur de ma part, en tout cas dans la participation à la parole politique, sont exclus un certain nombre d'êtres qui, par ailleurs, ont des activités dans l'oïkos, hein, pour le dire de façon un peu contournée. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, je pensais que ça allait de soi, au fond, que... cette idée de politique à laquelle je faisais allusion impliquait, enveloppait quoi, l'idée de démocratie, avec la notion de parole. sur la question du...
Je ne doutais pas de ton engagement. Je pense simplement que il y a peut-être un certain nombre de difficultés, de problèmes qui apparaissent dans une politique démocratique qui n'apparaissent plus si on dit politique. Tu vois, c'était pas la même chose. Bien sûr, quand tu dis politique, tu penses politique démocratique. J'imagine bien que ne pas faire un sourage censitaire pour donner un... etc. Mais la question, la difficulté propre aux démocratiques n'est pas rendue quand tu parles du politique ou de la politique.
Oui, mais je comprends bien. Mais je me rends compte qu'il faudra approcher parce qu'il
y a un certain nombre de choses qui allaient soi dans mon esprit et donc il faut apparemment les expliciter. Je pense qu'une partie de ce qu'il y a dans ta question est passée dans mon exposé de ce soir. Quand j'ai fait jouer, évidemment, trop rapidement, la distinction entre politique et État. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis aussi que la politique est un idéal. C'est une idée, je n'ai cessé de dire que c'était une idée, ou la parole aussi. Évidemment, dans la réalité, la politique se détermine, ou l'idéal politique se détermine dans des situations, dans des états de la politique. Qui eux d'ailleurs sont d'une certaine manière voués à la fixation et pas du tout à la vivacité de la politique. Hein. Donc je pense que ce genre de choses, dans mon esprit, la politique en tant qu'elle est liée à la parole au sens que j'essayais de faire jouer ce soir, elle n'a de sens qu'en tant qu'elle se reconstitue en permanence et non pas qu'elle se fixe. Donc il y a effectivement au niveau des pratiques politiques et des États en particulier toute une série de problèmes qui sont impliqués. En ce qui concerne peut-être pour répondre rapidement le devenir pauvre en expérience communicable, alors là c'est la même chose. Je ne vais pas faire une réponse disons pour Benjamin. Je pense que dans le texte de Benjamin on peut relativement dater ce qu'il veut dire quand il dit nous sommes devenus pauvres en expérience communicable. Puisque c'est un texte qui renvoie au mutisme des hommes revenus du front de la guerre de 14-18, mais pas à cause des événements de la guerre elle-même, à cause justement des poussées industrielles qui ont commencé avant la guerre et qui se sont poursuivies pendant la guerre. Au fait que ça se soit poursuivi, c'est-à-dire il associe ce mutisme, cette pauvreté en expérience communicable, à une façon d'être... d'être pris, quoi, en dehors de toute attente, finalement, par le progrès industriel. Donc on pourrait dire, voilà, c'est daté de cette manière-là. Quelque chose du mode de progression de l'industrie au 19e produirait cette pauvreté en expérience communicable. Bon, ma suggestion dans ce séminaire... Et de dire qu'il faut peut-être penser cette situation qui s'est réalisée historiquement à des moments donnés, il faut peut-être la penser cette situation comme relevant, je ne sais pas comment dire ça très rapidement à l'heure qu'il est, d'une structure de la pensée, d'une possibilité de l'humanité en général, qui n'est pas nécessairement... activé ou réalisé d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense qu'il y a des accents de la modernisation qui varient suivant justement que cette modernisation est ou non accompagnée de modernité, suivant qu'elle est. Mais il y a, je ne sais pas comment dire ça, pour encore être très très vite, il y a une tendance intrinsèque à toute société ouverte. Alors. Comme on voudra, à la technique, à la parole ou à la politique, une tendance de ces sociétés, une possibilité de ces sociétés, d'aboutir dans la pauvreté en expérience communicable ou dans une certaine forme d'abrutissement de la parole par la poussée même de ce qui, dans d'autres circonstances, conduit à la parole, ou fonde la parole. Donc, les situations peuvent être... Les situations peuvent être historiquement variables et répondre, disons, d'une forme ou d'une structure de l'être au monde qui est elle ontologique, voilà, plus qu'historique.
Est-ce que tu réponds ?
avant de vous êtes extrêmement bref, mais avant, je voulais par contre revenir sur la question sur la démocratie.
Parce que la façon dont tu poses cette question qui pour toi et pour nous tous est une évidence. Et je pense d'ailleurs c'est pour ça peut-être que Pierre Damien a été surpris, parce que en même temps tu dis non, c'est pas une évidence, et je pense que tu as raison. Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a un danger extrême, ce que tu viens de dire de l'oligarchie, c'est ça la question. C'est ça l'enjeu des échéances électorales en France, mais de tout ce qui se passe dans le monde pratiquement. Je pense qu'au Japon aussi, effectivement, les questions comme celle-là, on en a parlé l'année dernière, avec Hidetaka à Tokyo, etc. Donc, Tom Cohen est venu à parler à propos de la Thaïlande, etc. Bon. Cela étant, cette précédence du régime de la démocratie sur toute autre forme de politique, la démocratie comme représentant, le politique à proprement parler, c'est la modernité. Ça aussi. Je pense que c'est un trait absolument fondamental de la modernité. Ça ne veut pas dire que ça commence avec la modernité, bien entendu. Pourquoi je m'intéresse à Protagoras ? Parce que c'est un défenseur de la démocratie. Mais c'est pas seulement pour ça que je m'intéresse à lui, mais je m'intéresse justement au fait qu'il il pose une technicité de l'existence et il lit ça à la démocratie réciproquement. N'empêche que cette espèce d'évidence dans laquelle nous avons vécu pendant deux siècles, d'une précédence de la démocratie, à mon avis, est fondamentalement liée à une certaine modernité. Par rapport à ça, on pourrait se demander où on en est de cette modernité. Ça, c'est certain. Et il y aurait peut-être à défendre la modernité par rapport à ça, précisément. Et là, ça renvoie à ce que tu citais de Fethi Ben Slama, etc. Bon, ça renvoie à toutes les questions, finalement, que tu as posées. Maintenant, sur ta question de la justice et de plus ou moins juste, évidemment, là... Il faudrait beaucoup de temps pour te répondre, c'est une vraie question. Moi, j'ai passé dans un livre que j'ai consacré, enfin, dans un chapitre que j'ai consacré à Antigone, c'est dans le deuxième tome de mes Créances et discrédits, passé beaucoup de temps à expliquer la raison pour laquelle la justice n'est pas le droit. Et que, bien sûr, en règle générale, on tend à, par exemple, on dit, je suis passé dans l'appareil de justice, par exemple, je suis passé au palais de justice, mais c'est pas la justice que tu rencontres là, c'est le droit. La justice est une idéalité. Et de ce point de vue-là, elle fait défaut. C'est ça que ça veut dire. C'est une idéalité qui fait défaut, comme le point géométrique fait défaut. Parce que le point géométrique fait défaut. Sinon, ce ne serait pas un point géométrique. Ça, c'est absolument fondamental. Du coup, incomplétude, etc. Bon. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du défaut qui travaille le corps de toutes les idéalités qui constituent le politique. Et à partir de là, il y a la justice en tant qu'elle est une idéalité qui est incommensurable, sans mesure, d'une autorité absolue et infinie. C'est-à-dire pour ça qu'elle tend toujours vers le théologique. Il y a toujours une tendance à verser dans le théologique. Et puis, il y a le droit, qui, en général, qualifie le juste, c'est-à-dire le qualifie socialement. On dit ça c'est juste, ça l'est pas. En fonction de quoi ? En fonction d'une positivité du droit, c'est-à-dire de lois. De lois qui sont injustes par nature. Mais dont l'ensemble forme, elles sont injustes par nature parce qu'une loi est toujours en train de léser une autre loi. Mais dans leur ensemble, elles forment une expression de la justice. Alors cette expression de la justice, en principe, est quantifiable, c'est-à-dire qu'elle est jugeable, elle peut donner lieu à des décisions de justice, etc. Alors que la justice est indécidable, structurellement indécidable. Et c'est la raison pour laquelle, d'une part, Derrida a montré qu'il y avait une dimension intrinsèquement messianique à la justice et... On pourrait trouver chez Benjamin, d'ailleurs, pas moi. Et que d'autre part, le droit a toujours tendance à se transformer en une ontothéologie. Et moi, justement, ce qui m'intéresse dans la question du désir, je crois que seule la question du désir, telle qu'elle s'instruit via Freud, Lacan, Winnicott ou des gens comme ça, permet de réinstancier un objet qui est un objet infini et qui ne renvoie pas au théologique. Tu vois, c'est ça les
enjeux. Quand tu parles de mode de production juste, tu ne renvoies pas cette idéalité de justice.
Si.
Là, tu mesures.
Non.
Tu évalues.
Non, pas du tout. Tu ne peux pas évaluer Phidias.
Non, le mode de production.
Ah ben c'est un mode de production, Phidias. C'est ça que j'appelle un mode de production. Moi. Le mode de production, alors ce mode de production peut être l'activité technique de Phidias, mais ça peut être aussi la manière dont on essaye de faire naître un département du développement culturel, de faire que six individus des idéalités. Non, non, mais je parle très sérieusement. Ce que j'appelle l'individuation psychique et collective s'applique absolument aux entités. Une entreprise peut produire de la justesse, de la justice. Mais quand je dis une entreprise, je veux dire par là que une entreprise humaine en général, au sens, alors je prends le mot entreprise au sens très large, une entreprise humaine n'est humaine que pour autant qu'elle produit de l'individuation. Or cette individuation ne se produit que si elle produit du désir. Or l'objet du désir ne peut être qu'en excès. Alors là je reprends, parce que finalement il a parlé de défaut et d'excès, Pierre Damien aujourd'hui. Elle excède fondamentalement. À partir de là, elle est ce qui est toujours au-delà du calculable. C'est d'ailleurs tout le problème du capitalisme contemporain. J'ai fait une conférence que je t'ai d'ailleurs dédiée à la Sorbonne la semaine dernière, où j'ai essayé de parler du capitalisme qui spécule sur l'art contemporain. Et pourquoi est-ce qu'il spécule sur l'art contemporain? C'est parce que le capitalisme a absolument besoin d'un crédit, c'est-à-dire d'une croyance. Et une croyance n'est possible que si elle n'est pas calculable. Et donc elle est obligée de produire ce que j'appelle de la mystagogie. Parce que le rapport que tu as à une œuvre d'art ne peut être que mystagogique. L'œuvre d'art est structurellement un mystère. Tu ne pourras jamais prouver que c'est une œuvre d'art. Tu ne pourras jamais prouver que tu as raison de considérer que c'est de l'art et que l'autre a raison a tort. C'est absolument impossible. C'est une structure mystagogique. C'est une structure, autrement dit, de croyance irréductible. Et donc, c'est le dernier refuge, quand il n'y a plus d'état mort, c'est le dernier refuge du capital. Et ça donne, sur l'art contemporain, évidemment, des structures spéculatives extrêmement dangereuses pour l'art contemporain. Et c'est pour ça que moi j'invite l'art contemporain à refaire de la politique. Parce que sinon, il est très très mal barré, à mon avis. Mais bon, ça, ce sont d'autres questions. Mais ça, si tu veux, pour moi, cette dimension, il y a des modes de production justes. À partir du moment où on produit de l'individuation, on renvoie sur les objets du désir, donc sur cette justice-là. Mais là, je vais très vite.
Oui, je suis d'accord. Et simplement, ça renverrait à une autre question qui est, à partir du moment où il y a une idéalité de la justice et puis il y a du droit, et que malgré tout, il faut évaluer la part que le droit en termes de plus ou moins juste, il faut bien mettre en rapport ce qui est évaluable, c'est-à-dire le droit, avec ce qui est dehors de l'idéalité de la justice.
Et ça s'appelle la politique.
D'accord. Surtout démocratique.
Mais tu vois, le problème de la critique, par exemple, quand on a des débats sur les lignes de temps au niveau de l'analyse de film, on a aussi des problèmes de critique. Et très très souvent, le malentendu, c'est de croire que parce qu'on va pouvoir produire la détermination critique sur des choses, à un moment donné, monter à quelque chose, on cherche à prouver quelque chose. Mon engueulade avec Jean-Michel Frodon, elle porte là-dessus. Moi, je cherche un film, on va pas du tout à prouver que, je sais pas, Abbas Kiarostami est un grand cinéaste. C'est pas, le logiciel ligne de temps ne sert pas du tout à prouver quoi que ce soit. Par contre, ça sert à éprouver ça. C'est pas du tout la même chose. Mais, et je pense que pour pouvoir éprouver ce que le Kant aurait appelé la réflexivité du jugement, il faut à un moment donné déterminer les modes de production de ce jugement. Et donc, ça passe par des outils, des techniques très déterminables.
Peut-être juste pour parler de la question de l'art, à partir du cinéma, en pensant à Hiroshima, mon amour, dont on parlait tout à l'heure avec Sébastien très rapidement, il me semble qu'à un certain moment, il y a eu un aspect de la modernité cinématographique. Alors, il y a plusieurs définitions de ce mot, évidemment, plusieurs contenus qu'on peut lui donner et y ranger des réalisateurs fort différents, mais pour en rester à Hiroshima, mon amour, et à Alain René par conséquent, il me semble qu'à ce moment-là, on voit apparaître un certain nombre de choses que tu as exposées ce soir, de manière parapolitique, justement, enfin, pour reprendre, me semble-t-il, l'expression que tu as utilisée à propos d'un certain champ artistique. Par exemple, ce qui me frappe beaucoup, c'est combien une vitesse est nécessaire dans Hiroshima, mon amour. Et non pas une vitesse au sens où on dit que le monde va vite aujourd'hui ou je ne sais quoi, mais au contraire une vitesse très particulière qui est celle adoptée par les travelling de René, les fameux travelling, vous les rappelez, qui font passer aussi bien de Hiroshima à Nevers à la même vitesse. Qu'est-ce que ça désigne, ce mouvement
d'une technologie particulière. C'est pas tout le cinéma, c'est le travelling tel que le cinéma peut le concocter et l'adapter à quelque chose, hein, qui est de faire circuler à même vitesse dans Nevers et dans Hiroshima. Hiroshima de 1959, bien entendu. Il me semble qu'il y a aussi quelque chose au niveau de la langue. Ce fameux texte de Duras, dont on peut dire évidemment beaucoup de choses, je n'en retiens qu'un détail pour ma part, c'est que ce n'est pas une langue vernaculaire, justement, pour reprendre un des éléments que tu as essayé d'utiliser à un moment donné dans ton propos. Et j'en veux pour preuve ce que fait Nobuhiro Suwa. Quand il refait Hachitori, qui est un remake dit impossible, c'est le but du film Hachitori de Suwa, qu'il a tourné en 2000, vous savez, 2000-2001, il dit que c'est un remake impossible. C'est pas un remake, c'est un remake impossible, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Quelque chose ne peut pas se refaire aujourd'hui qui pouvait se faire dans cette modernité de, disons, 1959 chez Alain Resnais, n'est-ce pas ? Donc il y a des modernités, en effet. Et la chose sur laquelle fait à choper, alors volontairement ou pas trop, enfin c'est très négocié tout ça, Béatrice Dalle, qui rejouerait le rôle d'Emmanuel Riva en 2000, il l'a fait à choper sur la langue et sur les mots de Duras. Et elle dit alors, retrouvant la langue vernaculaire dont, hélas, Béatrice Dalle est un excellent représentant, avec le nombre de grossièretés qu'elle est capable de proférer en 3 secondes, qui est une langue de tous les jours avec son franc-parler, elle dit que justement ce qui ne va pas c'est le texte de Duras, trop beau, trop fort, trop je ne sais quoi, elle utilise plusieurs termes. Donc il y a quelque chose dans la langue là qui ne va pas et qui ne passe plus. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque ça a pu passer et quelque chose a circulé. Je crois vraiment que, contrairement à ce que dit peut-être Deleuze d'une mémoire à deux, il y a eu un échange, il y a un circuit de créer par René. C'est pas de l'ordre de la mémoire, parce que ça sous-entendrait peut-être quelque chose en commun. Mais il y a quelque chose qui s'échange, qui est Hiroshima pour l'un, qui est Nevers pour l'autre, et qui est évidemment très facile de voir en quoi ça ne va pas ensemble. Hein. Mais un circuit s'instaure là, du communicable, une expérience communicable peut s'échanger là. Enfin, quelque chose peut entrer grâce à la vitesse des travelling en relation et établir un type de circuit qui, je crois, a caractérisé d'une certaine façon une modernité parapolitique à ce moment-là. Oui.
Un objet technique dans lequel s'articule quelque chose qui est de l'ordre du visuel et quelque chose qui est de l'ordre du parler, disons, justement. Et il y a des relations entre les deux champs qui ne sont pas nécessairement des relations de représentation, de relève, de l'un par l'autre, etc. Par exemple, de parole de l'image par la parole. L'image est entretenant elle-même, d'ailleurs, avec le réel des rapports... peuvent être extrêmement compliqués à définir. Et je pense que bon, ça ferait partie des films, celui que tu cites, qui serait justement pour moi un exemple, en effet, de ce que j'ai essayé d'appeler, non seulement ce soir, mais les fois d'avant, la modernité, en tant que façon de travailler, de faire travailler les appareils d'époque, étant entendu que peut-être entre les deux registres précisément, celui de ce qui nous arrive par l'image et ce qui est parlé, il n'y a pas de rapport de représentation. Enfin, quelque chose. Et cette expérience-là elle-même, qui ne peut peut-être pas faire l'objet d'une explication, est une expérience justement nécessaire. Et l'état des modernes n'est pas le même lorsque ce genre de production leur est proposée et lorsque ce genre de production manque. En fait, c'est ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est-à-dire finalement l'incapacité de refaire quelque chose qui nous donnerait aujourd'hui ce qui a été donné là. Mais pas simplement parce qu'il y a une certaine thématisation dans le film, mais bien parce qu'il y a à l'objet technique lui-même un certain état, une certaine forme, et je redonne mon mot, une certaine esthétique.
Moi, je suis très frappé de la d'autant plus que c'est une coïncidence très étonnante puisqu'on travaille actuellement sur Rivette
et que Rivette dit ça de Capra, c'est-à-dire qu'il fait dans une interview de Danny, il fait un commentaire de New York à Miami, et il fait remarquer que parce que lui, Rivette trouve toujours les films de ses contemporains trop courts, mais il dit que par contre Capra, qui fait en 1h30 ce New York Miami, c'est parfait à l'époque, mais que maintenant plus personne pourrait faire ça en 1h30 et qu'on aurait au moins besoin de 3 heures. Et on aurait besoin de 3 heures, il existe une forme de paradoxe, mais à mon avis, c'est une forme de causalité, parce que comme justement on va beaucoup plus vite maintenant qu'avant de New York à Miami, il faut que le cinéma soit beaucoup plus lent pour faire le même New York-Miami. Sur cette question de langue vernaculaire, c'est sans doute juste, mais disons qu'à condition de rester inconsolable que le texte de Marguerite Duras cesse d'être la langue vernaculaire. Alors que, pour reprendre chez Dupuis, il en fait, si j'ai bien compris la citation que tu en faisais, Pierre Damien, il en fait un acquis que des choses ne peuvent pas se dire dans la langue de tout le monde. Alors que notre aspiration, c'est que, non pas la langue Duras soit la langue de tout le monde, mais que la langue de Duras participe de la manière dont la langue de tout le monde se construit. Ce qui laisse le différent avec Dupuis entier.
Moi, ce qui m'intéresse sur cette question, c'est que j'ai dit le mot en passant tout à l'heure, c'est la distanciation. C'est-à-dire que, par exemple, il y a dans la langue des
tensions, quoi. Donc, ce que effectivement la langue de Marguerite Duras entretient, finalement, c'est une tension avec la langue vernaculaire, celle de la Trisdal, par hypothèse. Et probablement ces tensions-là, qui sont à mon avis aussi entretenues d'ailleurs parfois par des échecs de la langue à dire, par exemple à dire les images, à les expliquer, les situations peut-être d'une manière générale, peut-être un certain échec de la littérature à dire, moi là-dessus je ne suis pas renseigné, quoi, un certain échec de la littérature à dire les choses est nécessaire à la possibilité de la parole par la tension que ça entretient dans la langue elle-même. Ce qui m'a gêné dans la phrase de Jean-Pierre Dupuis, c'est effectivement qu'ils disent, il faut faire une politique en sachant que les problèmes qu'il faudrait parler ne sont pas évocables dans une langue vernaculaire. À un moment donné, hein, il ne dit pas ça du tout, mais à un moment donné, c'est quelque chose qui, au fond, ne peut que rester secret. Alors moi, je ne dis pas qu'on peut parler les choses avec succès, mais on peut ne pas refuser d'y tendre. Voilà. Et ça me paraît très important.